D'après ce que j'ai entendu, le thème de ce soir, c'est le libre-arbitre. Donc on va essayer de traiter ensemble. Vous allez voir, c'est pas un thème facile. Surtout quand il n'est pas bien préparé. D'abord, avant de comprendre la notion du libre-arbitre, il faut comprendre le domaine de définition dans lequel il va s'appliquer ce libre-arbitre. Vous savez tout ce que c'est marqué dans le Maharal de Prague, que Kol ha'chaim zelatzet min ha'koach la'poal, que toute la vie, ça a été fait pour passer du potentiel à la réalité. Qu'un homme, il est là pour se réaliser, qu'un homme, il est là pour exister. Maintenant, à partir du moment où on est conscient que c'est ça le but de l'existence, alors Akadosh Baruch Hu, il va développer des domaines de définition dans lesquels un homme va pouvoir agir et en fonction de cela, s'épanouir dans le monde. Alors, il y a une Mara dans Nida qui dit la chose suivante. C'est marqué que 40 jours avant la conception de l'enfant, il y a la conception du fœtus, il y a un ange qui vient devant Akadosh Baruch Hu, qui prend la goutte de spermatozoïde qui est à la base de la conception de l'enfant, et qui dit devant Hachem, Tipazo Mate Alea, cette goutte-là, qu'est-ce qui va être d'elle? Qu'est-ce qu'elle va être? Alors est-ce qu'il va être fort? Est-ce qu'il va être faible? Est-ce qu'il va être grand? Est-ce qu'il va être petit? Est-ce qu'il va être riche? Est-ce qu'il va être pauvre? Ouais. Et quelle personne il va épouser? Et quelle maison il va acheter, il va avoir. Donc on voit, de là la Gemara elle veut apprendre, c'est-à-dire Rabbi Hanina, qui est rapporté aussi dans la Gemara dans Brachot d'après, c'est marqué « Akol vidi shamaim, chout mira shamaim, tout est entre les mains du ciel, sauf la crainte du ciel ». Déjà nous, ça nous donne un élément, que tout ce qui est donné physique, qui vont appartenir à l'homme, et dans lesquels il va participer dans le monde, sont des choses qui sont déterminées au départ. Donc quand on va parler de libre-arbitre, il faudra toujours arriver à définir exactement dans quel domaine on se situe. Pourquoi? Parce que si on comprend que le but de l'homme, c'est de se réaliser dans le monde, c'est d'exister dans le monde. Et exister, c'est être à l'extérieur. Iste, ex. D'accord? De la même manière que, dit le Maharal, la tset mi la koar et la poal, pour passer du potentiel au réel. Or, si c'est passer du potentiel au réel, un homme pour cela, il va devoir réaliser son être intérieur. Or, son être, il est divisé, on le sait, en quatre parties bien distinctes. Comme des poupées russes, vous savez, qui sont les unes sur les autres. La première, la couche la plus profonde, c'est la neshama. Dessus, il y a le nefesh, le psychique. Dessus, il y a le gouffre, le corps. Et dessus, il y a le vécu, c'est-à-dire toute l'enveloppe extérieure. Alors, ces quatre couches, elles sont liées les unes aux autres, dans le sens où elles sont moulées toujours par rapport à celle qui est inférieure. Par exemple, la neshama, elle est unique. C'est quoi une neshama? Une neshama, c'est une espèce de structure, on va dire, d'éléments divins. En Kabbalah, on appelle ça les nitutsot, c'est-à-dire des étincelles divines. Et la combinaison, ces étincelles, elles sont d'origine divine, mais la combinaison, elle est spécifique pour chacun. Or, chacun de nous, il a une neshama différente. Pourquoi? Parce que le but de la venue dans ce monde, c'est le tikkun de la neshama, le travail de la neshama, la réparation. Or, comme chaque neshama a un passage à faire dans ce monde pour pouvoir atteindre une plénitude qui va la ramener ensuite, d'accord, sous-entendu à Hachem global, parce qu'il y a une partie de Dieu qui a été séparée, ouais, et un jour, toutes ces parties de Dieu qui ont été séparées pour faire un travail dans ce monde, elles vont revenir à Hachem, c'est là que c'est marqué, Ubayomahu Yahshem Echad Ushmo Echad, et ce jour-là, Hachem et son nom, le nom d'Hachem sera entier et Hachem sera entier, parce que pour l'instant, il a pris un morceau de lui-même, il l'a dispersé dans les âmes, et cette partie de lui-même, elle va faire un travail dans ce monde, ensuite elle va revenir à Kadosh Baruch Hu, si elle a fait son travail, et jusqu'au jour, après le Mashiach, où tout Hachem, entre guillemets, pour nous, il sera entier. D'accord? Alors, si cette âme-là, elle est spécifique, puisque c'est une combinaison différente pour chaque personne, de la même manière qu'en chimie, par exemple, quand on dit H2O, alors il y a deux molécules d'hydrogène et une molécule d'oxygène, ça n'a rien à voir avec H3O, oui, ou H2O3, ou H4O2. C'est H4O2. C'est du café. Non, j'en sais rien. D'accord. Mais ça vous dérange pas, vous voyez, vous arrivez à vivre. Ouais. Donc, puisque chaque neshama, on va dire que c'est une combinaison différente. Donc, si chaque neshama est différente, et c'est en ça qu'on dit que chacun est un être unique. Vous savez, quand on dit, la Mishnah Sanhedrin, elle dit quand quelqu'un tue quelqu'un, un autre, c'est comme si tu es un monde entier. Que chaque être, il est unique, d'accord? Ça veut dire quoi, il est unique? C'est au niveau du tselem. Au niveau du tselem, c'est-à-dire au niveau de sa, on va dire la silhouette de son âme, de la définition de son âme, il est unique. Maintenant, de la manière qu'il est unique, on lui a donné aussi un système d'exploitation qui s'appelle le nefesh, qui s'appelle le psychique, qui est adapté à son âme qui elle aussi est unique. Donc maintenant il a une personnalité unique, qui est adaptée, le poupérus, d'accord, qui est adapté à son âme. Il a un corps aussi qui est unique, qui est adapté à sa personnalité, qui est adapté à son âme. Puisque le corps, ce sont les outils qui vont lui permettre d'optimiser les moyens qui lui sont donnés par son psychique. Alors la Gemara dit panim arezeknim, la face externe, c'est la face interne. C'est pour ça que quand vous regardez le corps de quelqu'un, quand vous regardez la démarche de quelqu'un, quand vous regardez les attitudes de quelqu'un, les rictus de quelqu'un, vous en savez beaucoup sur lui. Puisque son corps, c'est l'expression extérieure de ce qu'il a à l'intérieur. Quelqu'un, il est comme ça, ou il est comme ça, ou il se tient bien, ou il se tient mal, ou il est comme ça. D'accord. Donc le corps, il est adapté au psychique, qui est adapté à l'âme. Et le vécu, c'est la projection extérieure de son vécu intérieur. Donc il est aussi adapté à son physique, qui est aussi adapté à son psychique, qui est aussi adapté à son âme. Donc chacun d'entre nous, il est unique dans ces quatre dimensions. Alors la Gemara dit que c'est partout fait se note. Car d'un se note, de la même manière que les visages sont différents, les esprits sont différents. Donc chacun d'entre nous est unique. Le but de la vie, c'est d'arriver à rentrer dans ce monde et de faire le travail qu'on a à faire. Or, notre travail à nous, si on dit qu'il est pour une âme unique, avec un travail unique, alors de la même manière que imaginez une école. Dans une école, normalement, vous avez un professeur pour chaque élève, pour 30 élèves. Mais si on avait un professeur pour chaque élève, ça veut dire qu'on connaissait toutes les caractéristiques de l'élève, on connaissait tous ses manques, tout son malaise familial, tout son malaise au niveau inné, tout ce que génétiquement il a subi. Imaginons, on a une science extraordinaire et on sait exactement ce que chaque enfant il a besoin. C'est-à-dire que on pourrait te dire, écoute, cet enfant-là, il a besoin plus d'un travail au niveau de la confiance en soi parce qu'il a un malaise de relationnel avec son père. Celui-là, il a un problème de créativité. Donc, parce qu'il n'a pas eu la tendresse de sa mère, donc il faudra plus le travailler au niveau de la créativité. Celui-là, il a besoin qu'on le bichonne, celui-là, il a besoin qu'on le pousse, celui-là. Imaginez qu'on aurait des professeurs pour chaque enfant, d'accord? Pour quoi faire? Pour aider l'enfant, en fait, à se réaliser. De la manière que l'école, c'est l'école de l'épanouissement, c'est-à-dire que nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce que l'enfant va devenir, d'accord? C'est pas le fait qu'il soit là et qu'il occupe la classe et qu'il justifie l'existence de l'école. De la même manière, si un enfant il vient à la fin de l'année, il dit à son père, écoute papa, tes cahiers, tes stylos, tes livres que tu m'as donné depuis des années, ils sont impeccables. Tu peux les utiliser pour mon petit frère. On va lui dire, mais t'as rien compris, toi. Moi je veux que tu uses tes stylos, que tu exploses tes cahiers, que tu détruises tes livres de travail. Qu'est-ce que c'est les stylos? Qu'est-ce que c'est les cahiers? Qu'est-ce que c'est les... C'est les outils, ce sont les moyens qu'on t'a donnés pour que toi tu puisses te réaliser. C'est-à-dire que moi je te donne tout l'entourage et je te mets une feuille blanche. Je te mets de la connaissance en interne, et maintenant je te dis, vas-y, sors-moi, qu'est-ce que tu as compris? Exprime, c'est-à-dire, d'accord. Or, pourquoi est-ce qu'on a besoin de ce va-et-vient? Ça, nous, on demande aux enfants de restituer la connaissance, mais ça ne sert à rien. De toute façon, on leur donne, c'est pour eux. Après, on leur dit, rends-la-moi. Pourquoi tu veux me la rendre? Tu me l'as donné maintenant. Un enfant intelligent, il dit, moi je prends tout, tu m'as donné, je prends. Pourquoi tu veux que je la rende? Restitue. Pourquoi tu veux que je restitue? Alors, il y a une espèce de réaction chimique bizarre, c'est que quand vous donnez à un enfant de la connaissance et quand il vous la restitue, à part les magnétophones, hein, d'accord, donc les enfants qui répètent comme on leur a dit, mais quand un enfant il peut restituer dans ses mots la connaissance que vous lui avez donnée dans d'autres mots, ça prouve qu'il a compris, ça prouve qu'il a intégré, d'accord, ça prouve aussi qu'il est devenu ce qu'il a appris. Alors le but pour nous, c'est quoi? C'est que l'enfant devienne ce qu'il apprend. Il y a une différence entre quelqu'un qui a fait médecine et quelqu'un qui est devenu médecin. Tu dis, mais pour devenir médecin, il faut faire médecine? Pas du tout. T'as des gens qui font médecine, d'accord? Ils vont au examen, ils vont au cours, ils écoutent, ils sortent. Mais ils n'ont pas développé l'instinct du diagnostic. Parce que ça ne les intéresse pas. À la fin, ils disent, écoute, moi ce qui m'intéresse, c'est l'échec. À la fin de la consultation. Maintenant, j'ai remarqué qu'en faisant de la vente, ça se faisait 10 fois plus. Alors pourquoi je vais me prendre la tête à faire docteur? Donc il n'a pas développé ce qui était censé être l'instinct médical, il a développé un instinct du commerce. Donc il sent pas la maladie chez le malade, il n'a pas l'instinct du diagnostic, parce qu'il ne sait pas son problème. Donc il n'est pas devenu, oui, ce qu'il a appris. C'est pareil. La vie c'est une école. La vie c'est une école pour devenir quoi? Ce qu'on est. Le cours c'est la Torah. Le professeur c'est Yetzer Hara, c'est lui qui distribue les exercices. Le proviseur, c'est Akadosh Baruch Hu. Le matériel, c'est la Parnassa. Les camarades de classe, chez les autres Neshamot avec qui je vis. D'accord? Et l'élève, c'est moi. Maintenant, ou moi je vais utiliser tous les ustensiles pour devenir ce qu'on attend de moi, ou je ne vais pas devenir. Alors le but de la vie, c'est quoi? C'est de devenir. La 7000 akoach la poal, c'est passer du potentiel au réel. Tu as besoin des outils, il faut la Torah, sinon tu comprends rien. Parce que même si tu dis, mais à part ça, j'ai de la culture, j'ai de la psychologie, j'ai la maîtrise de moi, j'ai le zen, j'ai le... D'accord? Mais il manquera toujours 90% de l'iceberg. Vous comprenez ou non? Vous, tu peux être le plus grand des philosophes. L'homme le plus équilibré de la Terre, tu ne pourras jamais imaginer des téphilines. Jamais. Comprenez? La souka. Ah, les gens ils vont dire, qui a dit que vraiment on a besoin de la souka? Pour un non-juif, c'est vrai, t'as raison. Parce qu'on n'est pas formulé sur la même structure. Mais notre neshama à nous, on a dit la neshama, le corps, ouais, la neshama, le psychique, le corps, le vécu. Le problème c'est que nous, on est complètement construit sur le mode 613. Complètement. Pourquoi? Parce qu'il dit le refrain vital que la neshama, elle est diffusée à l'intérieur du corps. Et que la neshama, elle contient 613 éléments. 365 nerfs et artères spirituelles et 248 membres spirituels. Or, les membres spirituels et les artères spirituelles dégagent une énergie qui va nourrir le corps physique, qui contient 248 membres physiques et 305 nerfs et artères physiques. Le monde, il a été créé à partir de la Torah. La Torah, elle fonctionne comment? 613. Donc le monde, 613. La Neshama, 613. Le corps, 613. Maintenant, si quelqu'un est dit, oh, le téphilim. Donc lui, il pense qu'il a un membre en trop. Il a une partie de son psychique en trop. Il y a une partie du monde qui est en trop. Et une partie de sa neshama qui est en trop. Alors, si je vais chez quelqu'un, je lui dis, à ton avis, quel membre on peut t'enlever? Ça veut dire quelque chose qui sert à rien. Je parle pas des choses qui viennent en plus. D'accord? Je parle des choses qui sont, a priori, sur tout le monde. Alors, enlève quelque chose. Tu dis, t'as deux bras. Tu peux enlever un, non? Alors, t'as cinq doigts, enlève le pouce. Ah, je peux pas. Ben, enlève... Trouve-moi un truc qui sert à rien. À part l'amida, on trouve rien. Même l'appendicite. Yo, ça sert à rien, l'appendicite. Ils se sont rendus compte que l'appendicite, ça permet de lutter contre les radiations néfastes qui sont produites par les micro-ondes et par les téléphones sans fil. Ils ont découvert ça. C'est bien, hein? Sauf pour ceux à qui on a enlevé l'appendicite. Faut pas avoir de micro-ondes dans vos tailles. Ouais. Je dis, mais comment ils ont été chercher que ça a un rapport avec l'appendicite? Qu'est-ce que c'est juste? On ne peut pas demander aux hommes d'atteindre le niveau de connaissance qui serait nécessaire pour qu'ils puissent vivre avant de commencer à mourir. Alors, si vous comprenez ça, vous comprenez que Akadosh Baruch Hu, il a créé une personne sur un certain modèle. Or, le modèle, il est complet. Même le lobe de l'oreille. Une fois, j'ai posé cette question à une conférence, quelqu'un m'a dit, ah, le lobe de l'oreille, ah, le lobe de l'oreille, ah, ça sert à rien. D'accord? Ça sert à rien. Alors, vos tailles, les neurologues, ouais, ils ont dit que dans l'équilibre de déplacement, quelqu'un, il a besoin, pour se déplacer d'un certain équilibre, vous savez qu'il y a des gens qui ont des problèmes neurologiques qui sont liés au tympan. Et ce problème-là, il provient d'un déséquilibre au niveau, par exemple, facial. Alors, ça peut être d'origine mâchoire, quelqu'un il a une déformation de la mâchoire, et ça lui donne des problèmes d'équilibre au niveau neurologique. Quelqu'un peut avoir des problèmes d'ouïe, et ça vient de la neurologie aussi, et ça vient aussi d'une déformation. Eh bien, le lobe de l'oreille, il a un rôle de rééquilibrage au niveau de la forme de la tête qui va jusqu'à la neurologie. Je ne parle pas du rapport avec l'urologie, c'est encore un autre problème. D'accord? C'est plus compliqué. Mais au niveau de la neurologie, c'est comme ça que ça marche. Donc même le lobe de l'oreille, ça sert à quelque chose. Oui? Je ne peux pas rentrer là-dedans. Si vous m'obligez à faire un cours sur la médecine, déjà que j'ai pas de feuille, alors là, ça va se terminer en charcuterie. Regardez. Si vous comprenez ça, vous comprenez une chose extraordinaire. De la même manière que quelqu'un, il ne peut pas se passer d'un membre. De la même manière que quelqu'un, il ne peut pas se passer d'un morceau de son psychique. Quelqu'un, il ne peut pas se passer d'un morceau de sa neshama. Comment quelqu'un, il peut se passer d'une partie de la Torah? Il y a 613. Tu dis, mais je ne comprends pas, je ne vois pas à quoi ça sert les téphilines. Mais de toute façon, tu ne sais même pas à quoi ça sert les poumons. Tu ne sais même pas à quoi ça sert la vésicule. Et tu vas l'enlever la vésicule. Pourquoi les gens, ils veulent plus racham que le racham des rachamim qui HM? Pourquoi? Je n'ai jamais compris ça. Parce que l'autre, il a fait 15 ans au CNRS, alors maintenant, ils se font pour Dieu. Je vous rappelle que le dernier qui a essayé, on l'a cloué pour se rappeler de lui. D'accord? Il faut arrêter! T'as fait 20 ans d'études, t'as fait 30 ans d'études, t'as un doctorat de doctoresse. Mais Hachem, il a le doctorat de tous les doctorats. Alors qu'est-ce que tu veux avec lui? Ouais. Pourquoi les gens, ils veulent pas, ils veulent se prendre pour autre chose que des hommes? On est des hommes. Quand tu leur parles d'Abraham, Israël et Jacob, ils te disent, oh, c'était des hommes. Mais attends, si eux, c'était des hommes, nous, on est quoi? Nous, on est quoi? Nous, on est les souvenirs d'une vapeur d'excrément de chien. Vous savez que le souvenir d'une vapeur, c'est, au niveau biochimique, c'est pratiquement rien. Le souvenir d'une vapeur. Ça, je vous ai pensé à ça. D'accord? C'est la concentration moyenne qu'on trouve dans un cerveau moyen. Ouais. Essayez de comprendre. Si c'est comme ça, alors maintenant, Akadosh Baruch Hu, il a créé un système. Quatre dimensions, avec une obligation d'existence. Un homme, il a besoin d'exister. Il faut qu'il existe. Alors là, tu l'as dit dans sa netrine, Adam, le Hamad Yulad. L'homme, il a été créé pour faire des efforts pour travailler. Bon, les gens ont cru que ce principe-là, il avait été émis par la société du travail, d'accord, à l'époque de la révolution industrielle. Mais c'est beaucoup plus vieux que ça. Ça date de l'époque de la Gemara. C'est Adam, le Hamad Yulad. Un homme, il a été créé pour faire des efforts. C'est-à-dire quoi faire des efforts? C'est simple. Si je comprends que ma neshama, elle est préprogrammée pour exister. Donc c'est comme une espèce de compresseur qui produit une impulsion d'existence toutes les 10 dixièmes de seconde. Donc toutes les 10 dixièmes de seconde, ma neshama dit soit. Cette impulsion d'existence, qui s'appelle l'énergie, qui s'appelle la volonté, elle sort de ma neshama, elle rentre dans mon psychique. Alors je vais la gérer. Je vais l'utiliser, je vais l'optimiser, ou je vais la ridiculiser, je vais la détruire, je vais la casser. Elle arrive dans mon physique. Elle développe l'énergie, la force, le désir d'être. D'accord? Et elle sort dans mon vécu. Alors, à ce moment-là, il intervient le principe Adam le Hamad Yulad. Pourquoi on a besoin de ça? Un homme, il est là pour faire des efforts. Pourquoi faire? Au contraire! Vous savez que l'homme, c'est le seul animal qui s'arrête. Les fourmis travaillent, les molécules travaillent, les pellicules tombent, tout le monde travaille. Il n'y a que l'homme qui s'arrête. L'homme, il se regarde, il se contente. Rodin. D'accord? Mais comment l'homme il peut s'arrêter? Il est fou. Tout le système il marche, comment il s'arrête? Il ne peut pas s'arrêter. Qui sait qui a le loisir de s'arrêter? À Bretagne, on n'a même pas le temps d'être malade. On n'a même pas le temps d'être triste. Qui sait qui a le temps? On n'a même pas le temps de regarder la télé. Qui sait qui a le temps? Il faut vraiment avoir au moins 20 ou 30 guilgoulines d'avance pour regarder la télé. C'est pas possible. Ouais. On n'a pas le temps. Il y a trop de travail. Ça n'est un goy moyen. Il a une femme, il a des enfants, il a sa vie à faire, il a ses enfants à faire, il a sa famille à faire, il a son couple à faire. Donc c'est un truc qui va prendre à peu près, à 20 heures par jour, ça prend à peu près 120 ans. Comment il peut prendre 3 heures pour la télé? Et là-bas, ça fait longtemps qu'il s'est découragé, il a dit je préfère rêver devant Claudia que de rêver que mon couple il va exister un jour. Mais un juif, il n'a pas le temps. On a beaucoup de travail les gars, on peut y aller. C'est si déjà tu veux être un bon boy, c'est-à-dire avoir une personne équilibrée, un couple équilibré, des enfants équilibrés. Déjà, pour être un bon goy, déjà, c'est déjà un travail de folie. D'accord? Et ça, c'est derrière reste qu'elle m'a la Torah. Ça, c'est juste derrière reste qu'il faut, ça. C'est-à-dire d'avoir une humanité normale, c'est déjà un travail goy, obligé, pour tout le monde. Et à part ça, il faut être un tzadik. C'est la partie immergée de l'iceberg. Et t'as le temps de regarder la télé? Mais où t'as trouvé ce temps? T'as le temps de vendre? T'as le temps de rigoler. Vous n'avez pas vu le tzadik qui me court toujours? Pourquoi tu cours? Avec tout ce que tu sais, pourquoi tu cours? Prends le temps de vivre. Cette vie-là, eux, ils appellent ça la mort. Eux, ils l'appellent la mort. Pourquoi? Tu vois, il y a un cadavre. L'autosuffisance totale. Allongé, comme ça. Mais il ne peut pas faire autrement. Et toi, tu es vivant, pourquoi tu t'arrêtes? Adam, le Hamalulab, Adam, il ne doit jamais s'arrêter. Pourquoi il ne doit jamais s'arrêter? Je vous explique pourquoi. C'est très simple. Si je dis que le monde il a été créé pour qu'un homme existe. Or, on a expliqué qu'à l'école, pour pouvoir exister, on passe par des exercices. Alors, imaginez, moi, je suis un très bon prof de mathématiques, je suis un très bon prof. Et je sais que je dois faire absorber à mon élève, durant les 3 années du secondaire, 2747 théorèmes. Que pour absorber ces 2747 théorèmes, j'ai besoin de 28 482 exercices. Et que je sais que chaque exercice, il provoque un réflexe de maturité, de maturation au niveau du théorème numéro 24 dans la tête de l'enfant au moment où il accomplit l'exercice. Je suis très fort en mathématiques. Je suis un très bon pédagogue, d'accord? Donc je sais que chaque exercice qui va provoquer. Alors regardez bien. Moi je suis à l'extérieur. Je vais à la pêche à l'intelligence. L'intelligence c'est la capacité d'adaptation de l'enfant. Donc l'enfant je lui envoie un théorème dans la tête. Je lui envoie un cours. Donc il reçoit du théorique. Je dis, maintenant c'est théorique, mon fils, tu vas me le rendre en pratique. Or, on sait que la seule manière de devenir, c'est de pouvoir mettre en pratique ce qu'on a appris en théorie. Ça s'appelle un nissayon en hébreu. Un nissayon, c'est une épreuve, et un nissayon, c'est une épreuve en français. C'est quoi l'épreuve? L'épreuve, c'est le pouvoir de devenir ce qu'on a appris. Une interrogation, c'est un contrôle de connaissance. Un examen, c'est pas pour contrôler ce que tu sais, puisqu'on a déjà ton bulletin. Alors quoi c'est ça l'examen? L'examen, ça sert à devenir ce qu'on a appris. Parce que tu es confronté, après une année de cours, tu es confronté à un examen final, tu vas pas tout redire, tout ce que tu as appris. Mais on va savoir exactement ce que tu as appris, selon le degré de maturité que tu as atteint. Et ça, c'est les textes. Prenez les textes du ministère de l'Éducation nationale, on va vous dire à quoi servent les examens. Les examens servent à contrôler la maturité de l'enfant dans sa façon de s'exprimer, dans sa façon de réfléchir, dans sa façon d'aborder le sujet. C'est-à-dire quoi? Si le monde intérieur, c'est le monde virtuel, et le monde extérieur, c'est le monde réel, et si la maturité, c'est la capacité d'adaptation à la différence entre le monde intérieur et le monde extérieur, être mature, c'est pouvoir absorber les questions que me pose le monde extérieur. Donc le Nisayon, c'est l'école du devenir. Comment on appelle devenir? Exister. Si à l'école j'ai des exercices, dans la vie j'ai des exercices. Akadosh Baruch Hu, c'est un très bon pédagogue. Il sait exactement qu'est-ce que produit chaque exercice. Donc tous les matins, il me prépare une série d'exercices. Comment il s'appelle le prof de TD? Yetzirah. Ou er vata yeshen. C'est marqué dans Chovat al-Vavot. Ou er lecha vata yeshen lo. Toi, tu dors pour les Yetzirah. Tu les gens qui disent, oh, qu'est-ce qu'il y a, c'est la main d'une dame. Oh, c'est bien, bon, regardez un film un petit peu. Oh, puis dans l'argent, bon, vous savez, c'est à toi, c'est à moi. Bon, je veux dire, on va pas... Toi, tu dors pour les Yetzirah. Toi, tu dors. Tu dis, ah, il n'y a rien de dangereux, vous voyez le mal partout. On dit, les religieux voient le mal partout. Ils sont tranquilles. Ouais, faut être un peu cool, pas être trop extrémiste. Faut être cool. Ah, d'accord, bon. Ouais. Toi, tu dors pour Yetzirah. Yetzirah, il est réveillé pour toi. Toi, tu dors la nuit, tu fais pas. Lui, il prépare le programme. Tu te réveilles à quelle heure? 7h02, il marche. 7h03, Netilat Yadayim. 7h04, tu t'habilles avec Shniout. 7h05, tu te laves avec la kavana de devenir pur. Comme ça, c'est marqué. 7h06, tu vas aux toilettes, Sniout, pas n'importe comment en style. 7h09, tu t'habilles bien. Bon, c'est 7h10, tu fais célébrer avec Kavana. 7h12, tu sors à la synagogue, tu sors dans la rue, attention, tu te sens tes lumières, tu regardes de par terre. Après, tu remplis ta vidéothèque de toutes les pourritures de la terre. Tu arrives à la synagogue, tu fais pas honte, il y a un Annie qui tend la main, tu lui fais doucement, tu fais pas, hey, hop, 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 c'est moi! Non, tu lui donnes ça doucement, d'accord? Ouais. 16h19, Ishtabar, hop, tu fais les mizmorim avec l'envie de te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, hop, t'arrives à Ishtabar, on te demande de faire la tfila, tu refuses une fois, deux fois, trois fois, tu montes parce que c'est normal à Hanava. 4e, t'arrives, le schéma avec Kavana, 6e, l'armida, 5 brinchins, une Kavana, tada, 6h20. Il a préparé pour toi les exercices. Toi, tu dors. Tu te réveilles 7h02, Nitilat, tu dis, oh, je suis pas religieux, d'accord, bon, c'est pas grave. Après, Esniout, alors tu te balades tout nu devant ton fils, il est ça sera pour toi. Après, il dit, bon, tu t'habilles proprement, ben, bon, laisse tomber. Tu te laves la figure avec Tara, bon, je t'en parle même pas, c'est trop bon, c'est trop. Tu sors dehors, tu fais les bras frottes, quelle bras frottes, ah oui, excuse-moi. Tu sors dehors, la vidéo, excuse-moi, j'ai besoin de la recharger. Zoom, d'accord. Tu vas faire la tila, quelle tila? Ah oui, alors, t'es un peu religieux, bon, c'est la tila. Alors, la kavana, d'accord? Ah oui, excusez-moi. Le Kratchema, ben oui, mais j'ai des problèmes dans la tête, je peux pas me concentrer. La Amida, ben j'aime bien visiter un peu Honolulu, l'Afrique, tout ça. Et c'est rigolo ça. C'est ça que je me suis dit, c'est rigolo parce que, regardez, vous voyez la Torah par exemple, elle dit, je donne un exemple de la débauche, parce que c'est un truc facile à comprendre. Les gens, quand vous leur expliquez l'intérêt dans les tefilines, ils jouent les hasidines. Regardez la débauche, la Torah dit. Tu n'as pas le droit de regarder une femme, d'accord? Tu n'as pas le droit de convoiter, tu n'as pas le droit de désirer, mitavé, d'accord? Tu n'as pas le droit de toucher, non même pas, tu n'as pas le droit de trop parler, altarbishikha, tu ne peux pas t'isoler avec la femme, tu ne peux pas toucher la femme, tu ne peux pas dormir avec la femme. C'est loin, hein? C'est loin! Alors les gens toujours ils disent, mais pourquoi tellement loin? Pourquoi c'est trop exagéré? Ah, c'est exagéré! Qu'est-ce qu'il y a de parler avec une femme? Ah, pas! Qu'est-ce qu'il y a de s'isoler? On peut s'isoler! Ton mari n'est pas là, bah écoute, justement, je sais pas où, je suis pas un peu mal dans ma peau, ça ne dérange pas si je m'assois, t'as pas un verre d'alcool, qu'est-ce que c'est? Rabotaille, les adultères, c'est toujours la meilleure amie de ta femme, ou toujours le meilleur ami de. À toi! C'est comme ça! D'accord. Au début, tu rentres, tu dis, oh, bah, on n'est pas trop religieux, nous. Hein. Exagéré. Ils voient le mal partout. Allez, rentre. Ton mari n'est pas là. Un petit normal, même un goy. Ton mari n'est pas là. Excuse-moi, je m'en vais. Ah, tu dis, bon, je peux rentrer. Qu'est-ce que tu fais là? Mais qu'est-ce que tu fais là? Alors, vous savez qu'il y a une loi chimique qui dit que deux corps chauds qui sont placés à proximité développent la chaleur. On parle. On se comprend. Communion intellectuelle. On se raconte l'intimité. Communion sentimentale. Communion intellectuelle. Communion sentimentale, qu'est-ce qui manque? Communion physique. Ben, on n'est pas des grands marmirines. Alors, on se serre la main. On se fait la vis pour dire au revoir. Mais celui-là, ce petit baiser-là, il est un peu plus long que les autres. Alors, ça fait une petite vibration, là. Plus les yétera qui met du piment. Bah écoute, si t'es vraiment mal, t'as qu'à dormir sur le canapé, hein, pas peine de rentrer chez toi. Et le lendemain, adultère. Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, le téléphone, il sonne en moyenne 80 fois par jour, et j'ai un adultère par semaine. Que des gens sérieux, beau cachet. Pas des pourris, pas des vicieux, des gens bien, des juifs, mariage, père et mère juive, oh, trois enfants, des gens bien, des, je veux dire à la limite, hnin. Tu veux parler d'anglais? Ouais. Des hnin. Hanin, ils ont juste fait une petite erreur. Ils ont fait une petite erreur, mais pas grand chose. Ils ont fait une petite erreur. Ils n'ont pas compris qu'en haut du toboggan et en bas du toboggan, c'est la même chose. Ils n'ont pas compris. Comprenez ou non? Il y a le toboggan. Alors tu dis, ne t'approche pas du toboggan. Ne te mets pas sur le toboggan. Il dit, mais je suis en haut du toboggan, je ne suis pas trop religieux. Mais tu n'as pas compris qu'en bas du toboggan et en haut du toboggan, c'est rien, c'est une question de seconde. Alors, les religieux, eux, ils disent, c'est la Torah, elle a dit, attention, attention, ne t'approche pas, la Torah, elle sait, tu regardes. Tu convoites. Tu as envie? Très bien. Tu parles, tu ressens, tu touches, tu couches. C'est tout. C'est simple. Alors la Torah, elle t'a dit, attention, c'est mécanique. Hop, 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 hop. C'est bon, c'est comme si un type, il roule à 130, il prend un virage, d'accord? Il voit la plaque d'huile, il dit, il va rien se passer. Pourquoi? Je suis pas religieux. Tu vas t'éclater la tête. Tu vas sourire, tu vas embrasser ce mur de béton. Il va t'éclater la tête comme ça. Tu vas dire, je crois que j'ai compris ce qu'elle veut la Torah. Ça se voit, regardez la tête d'un mort. Il a compris. Regardez-la, il a compris. Donc pourquoi tu veux attendre la mort? Réfléchis un peu. Si la Torah, elle t'a dit que c'est dangereux. Alors regarde, ça sort pile l'inverse. Les gens que soi-disant, ils sont préservés. Parce qu'ils ont la barbe de chapeau. C'est difficile de faire une terre quand on est comme ça. Parce que vraiment, l'autre, elle doit arriver. Elle dit, attends, excuse-moi, t'es rabbin. C'est dire. D'accord. L'autre, vraiment, il lui manque que la croix pour faire le goy. D'accord. Pourquoi pas? Oui, il faut là. Oui. Oui, pourquoi pas? Alors, le chassid, que lui, normalement, il a moins de chance, moins de possibilités. D'accord. Donc, il fait attention aux détails. Et l'autre, que lui, il est vraiment à deux doigts. Il travaille avec le goy, il parle avec le goy, il rigole avec le goy, il mange avec le goy. Donc, il a deux doigts. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de côtoyer les goyim, je ne sais pas. Ouais. Moi, le peu que j'ai pu, quand je travaillais à la poste. D'accord. Le matin, alors, t'as vu la fille? Après je dis bon, c'est les postiers, c'est un peu bas de gamme. Je suis monté, je travaille avec grand truc, les grandes pontes, ingénieur, non, quatre ingénieurs, on parlait, ouais, bah, comment on met les choses au point, tout ça, là. Et ce qui passe, les quatre. Moralité, que tu sois en bas de l'échelle ou en haut de l'échelle, tout est une question de longueur de jupe. C'est extraordinaire. Ça c'est la société d'aujourd'hui, la société de consommation. C'est-à-dire, on est sans sommation. D'accord? C'est comme ça. À vos tailles. Quand le chassid, il fait attention aux détails, c'est parce que monsieur, c'est pas parce qu'il est pointilleux, c'est parce qu'il sait que ce détail-là, il t'accroche comme ça, comme avec un ressort, et il t'emmène à la fin de l'histoire. Mais quand l'autre, il dit, moi je suis pas tellement religieux, il faut être un cascadeur pour prendre des risques comme ça. Il faut être un cascadeur. Comment le type, il peut avoir la force? Comprenez ou non? Pas de barbe. D'accord? Pas de maîtrise de soi. Ambiance naze toute la journée, film bidon à la maison, et il s'isole chez la voisine. Mais il n'a pas peur. Parce que moi, j'ai un genre de main. J'ai même. Moi, j'ai les deux, moi, j'ai la maîtresse et l'amant. Je dis, mais monsieur, mais comment ça vous arrive ça? Vous n'avez pas réfléchi? Ah, il y a deux solutions. Soit ils se prennent le haut, ils te disent, une fois une maîtresse, elle m'a téléphoné, comment vous avez pu casser un couple? Elle me dit ça. Est-ce que vous comprenez? À moi. Parce que moi, elle, parce que le mari, il est venu l'après-midi, d'accord? L'amant. Moi, je sais, d'abord, la femme, elle m'a téléphoné. Elle m'a dit, voilà ce qui est arrivé avec mon mari. Elle me dit, moi, je l'aime, je ne veux pas craindre. Oh, je ne voulais pas. Bon. Je l'ai appelé, je lui ai macassé à ses 3 heures la tête. Je l'ai séparé de la fille. Je lui ai dit, voilà, tu l'appelles, c'est fini. Il a pleuré, il a accepté. D'accord? Bon, je l'ai isolé, son etc. Bon, il a pris le téléphone, il a cassé. La femme, elle m'appelle le soir, la maîtresse. juive, hein, trois enfants. Hein. Elle me dit, comment vous avez osé casser un couple? Vous savez, quand on vit dans les chivotes, on a l'habitude de voir les choses un peu à l'envers. Et là, vraiment, elle m'a... Ben, Nara, j'ai dit, madame, vraiment... Elle a pris de haut. Elle m'a énervé. Je suis gentil en général. Je suis assez fini. Mais là, elle m'a énervé. Alors, je lui ai dit, écoutez, madame. D'abord, je lui ai dit, écoutez, on va remettre les choses au point. D'accord? Elle m'a dit, oui, comment vous me permettez de faire des choses pareilles? J'ai commencé à lui expliquer doucement, etc. Elle m'a dit, non, moi, ce langage-là, il ne m'intéresse pas. Je lui ai dit, après, je vais parler votre langage. Je lui ai dit, madame, entre la première fois où vous l'avez rencontré et la première fois où vous avez dormi avec lui, c'est passé combien de temps? Elle m'a dit, 2 semaines. Je lui ai dit, écoutez, madame, c'est un métier, ce que vous avez fait. C'est dommage que vous l'ayez fait gratuit, parce qu'il y a des gens qui gagnent pour ça. Je lui ai dit, comment? Vous êtes mère de famille, vous voyez un type qui s'approche de vous, et vous voyez pas la photo de vos enfants et la photo de votre mari devant vous? Vous les voyez pas? Elle me dit, non, c'est l'homme de ma vie. Je dis, écoutez, madame, alors, on va pas parler de religion, ça sert à rien. On va même pas parler d'humanité, on va même pas parler d'équilibre. On va parler des chiens. Vous voulez qu'on parle des chiens? Vous voulez qu'on parle des chiens? Alors, quand elle a un peu pleuré, on a parlé sérieusement. C'est pareil. Ou alors, deuxième réaction, les gens te disent, ben écoute, j'ai fait une histoire. Il te dit. Non, c'est vrai. Adultérin. Il te dit, j'ai fait une histoire. Pourquoi? Parce qu'elle souffrait avec ce monsieur. D'abord, il n'a pas de tendresse pour elle, il n'est pas occupé, tout le temps il y court après, il ne sait pas vivre, il ne sait pas truquer, il n'a pas compris la valeur de la femme qu'il a. Moi, je vais lui donner la possibilité d'exprimer son potentiel de femme. Je dis, d'accord, c'est pas interdit dans la Torah, d'accord, mais il faut divorcer d'abord. Et tu te remaries. Pourquoi c'est juste la femme interdite qui est intéressante? Alors, si vous êtes un peu de psychologie, ça s'appelle le syndrome de Don Juan. C'est toujours la femme interdite qui est attirante, c'est pas la femme permise. C'est comme ça. C'est bizarre, hein? Pourquoi? C'est pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il a un goût spécial. C'est comme le camembert, d'accord? Il n'y a pas un type au monde qui peut faire la différence entre un camembert cachère et un camembert qui n'est pas cachère. Pourquoi? Parce qu'on a changé la présure. Maintenant, si vraiment vous êtes né dans le Périgord et vous avez grandi entre les mamelles des vaches, peut-être que vous allez sentir, vous allez dire, mais un type normal, un parisien moyen, quand il prend un camembert cachère, pour lui c'est pareil qu'un camembert qui n'est pas cachère. Alors pourquoi il dit, il est meilleur l'autre? Il est moins cher et il est meilleur. C'est pas pareil. Vous savez pourquoi? Parce que l'autre, il a le goût de la Avera. Le goût de la Avera. Le goût du Tarès. Tu fais comme ça. Mâchez-vous. C'est le goût de la mort, en vérité. La Avera, c'est la mort. C'est le goût de la mort. C'est vrai, non? C'est ce que c'est la viande faisandée? La viande faisandée. Le gibier. C'est quoi? C'est quoi? C'est une viande, avant de la faire cuire, elle s'est pourrir pendant 3 jours. Et qu'est-ce qu'elle a le goût? La mort. C'est ce que c'est le roquefort. C'est le verre du roquefort, c'est quoi? Le verre du roquefort, c'est quoi ce que c'est? C'est de la moisissure, hein, Botaille. C'est ça de la moisissure. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il veut, l'homme? Il veut la mort qui est lourde. C'est de la folie, hein. On reviendra ça tout à l'heure, parce qu'on va essayer quand même de suivre une certaine ligne dans le cours. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire un homme, il est là pour exister. Pour exister, on lui a donné un potentiel avec un grand désir d'être qui s'appelle la Neshama. Cette Neshama, elle produit un désir d'être, regardez bien, qui traverse le psychique, qui traverse le physique, qui traverse le vécu et qui arrive devant ce que propose la Kadosh Baruch Hu. Comment ça s'appelle des exercices? On appelle ça des Nishyonot. Maintenant. Chaque Nishayon, c'est comme un diapo différent. Chaque diapo, il a une utilité qui peut être optimisée, en bien ou en mal. Maintenant, puisque la Neshama, elle produit des impulsions d'existence qui sont toutes les 3 microsecondes. Donc, en cas de Jboku, il est obligé de produire des exercices qui sont, regardez bien, les espaces d'optimisation, on dit optimisation? Les espaces d'optimisation du potentiel. Comme le prof de maths, il donne un exercice très précis pour telle partie du théorème, en cas de Jboku, il va donner un exercice très précis pour telle partie de ton épanouissement spirituel. D'accord? Mais si moi, je ne tiens pas le rythme, là, on fait une chaîne, d'accord? On fait une chaîne. On va faire un mur. Alors, allez, prends les briques. Les briques, donne la brique. Hop, on passe. Alors, l'impulsion de l'Eshama, hop, elle passe. au physique. Le psychique qui passe au physique. Le physique qui passe au vécu, hop, on commence le mur. Mais si on est au milieu, tu s'arrêtes. Par exemple, le type a des complexes, manque de respect de soi, manque de confiance en lui, il dit non. Il ne parle plus. Il ne peut plus. Alors, l'Inshama, elle continue. Maintenant, il a réglé son équilibre psychique, mais il a un problème physique. Les flemmards, le confort, le poids de la matière, le poids du temps, le poids de la lourdeur. Et pourquoi oui? Il veut justifier le creux qu'il produit dans le fauteuil. Grand problème existentialiste. C'est le rap d'un hôpital qui a dit ça, d'accord? Comment est-ce que, sans moi, ce creux il va exister dans le fauteuil? Comment sans moi il va exister? La philosophie du flemmard. Je produis quelque chose, sans moi. Si je me lève, il n'y a plus de creux. Alors, hein? Ça, c'est le poids du corps. Donc, encore une fois, la Neshama, elle envoie des impulsions. Elle peut être bloquée au physique. Elle n'est pas bloquée au physique, elle peut être bloquée au physique. Elle n'est pas bloquée au physique, elle peut être bloquée au vécu. Vécu, c'est quoi? Vécu, confrontation avec la réalité. Confrontation avec l'autre. Confrontation avec la différence. Confrontation avec le mouvement. C'est que la vie, elle est en mouvement. Ouais? Alors, peut-être quelqu'un, dans ses tentatives d'existence, il va arriver en face de l'autre. Hein? Non. En face de la difficulté. Ah? Oh, non. Au lieu d'exister, il va imister. Ça n'existe pas, mais je suis obligé de créer. Il va imister. D'accord? Donc, il ne doit pas exister. Mais les impulsions, elles continuent. Rabota, il a apprenti sorcier. Vous ne connaissez pas ça? Les impulsions, elles continuent à arriver dans les chamas. Donc, il y a compression. Compression. S'il n'y a pas d'existence. Donc la Torah l'a dit, Adam, le Amal Yulad, un homme, il est créé pour faire des efforts, ça veut dire quoi? Il est créé pour donner, regardez bien, à sa Neshama, la possibilité de se réaliser à chaque instant. En plus qu'on a créé des microsecondes d'impulsions, pour des microsecondes d'épreuves, qui sont les exercices d'optimisation de l'impulsion de la Neshama, donc l'homme qui doit faire le relais entre son potentiel et sa réalité, qui est perpétuellement en mouvement, il doit être rebelle. Mais si quelqu'un y glande, c'est très dangereux parce qu'il cumule des impulsions. Or, vous savez que des impulsions d'existence qui ne sont pas réalisées, vous savez comment ça s'appelle en psychologie? Des frustrations. Des frustrations. Si je vous dis que les trois quarts des gens qui ne vont pas au bout de leur but et de leur rêve, c'est des gens qui cultivent la frustration. Alors maintenant, ils vont justifier ça, parce que tu peux pas, quand t'es gamin, tu dis, non. Quand t'as 34 ans, tu peux pas. Quand tu dis, j'y arrive pas, j'ai un problème, ou tu dis, c'est la faute de ma mère, c'est la faute de mon père. Même si, il me l'a dit, mon psy, il m'a bien expliqué, mon psy. Moi, j'avais du mal, tout le monde me disait, bouge-toi. Mon psy m'a dit, non, t'es pas obligé de te bouger, parce que c'est la faute de ton père. Eh ben, je suis content. J'ai 38 ans, je fais pipi au lit, mais je sais pourquoi. Tu dis, je te comprends mon fils, mais tu voudrais pas qu'on passe à une autre étape? Tu voudrais pas qu'on avance un peu? Allez, fais-nous quelque chose, fais-nous un gros bébé. Alors les étapes. Jeune homme, non, petit garçon. Regardez, petit garçon. Jeune homme, homme, papa. C'est pas pareil. Après, on va dire responsable, c'est-à-dire ou chef d'entreprise, ou la chef de yeshiva, ouais. Grand-père. C'est des étapes. Les gens disent, ben c'est les étapes de la vie. C'est les étapes de la vie. Oui. Ça c'est la philosophie de la Mashkiri. C'est pas comme ça. Quelqu'un il peut avoir 40 ans, est un gamin. Oui. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas passé les étapes. S'il dit mais les étapes, il les a passées. Non. Son corps, il l'a passé. Or vous savez qu'une plante, que tu le veuilles ou non, elle pousse. Un enfant. Tu lui donnes à peu près à manger tous les jours, il grandit. Oui ou non? Donc le corps, ça ne veut rien dire. Mais le corps psychique, il a grandi ou non? Ah ben ça dépend de toi. Puisque la maturité, c'est le résultat de la confrontation, la différence entre le monde intérieur et le monde extérieur. Donc si quelqu'un ne s'est pas confronté au monde extérieur, il est resté le même que celui qu'il était, puisqu'il n'est pas devenu. Or, le corps est, mais la personne devient. Mais si la personne n'est pas devenue, eh ben elle est. Donc si elle s'est arrêtée d'être à 8 ans, eh ben à 40 ans, elle a 8 ans. C'est pas possible, enfin 40 ans, enfin, soyons raisonnables. Mais dis-moi, comment des parents ils ne peuvent pas assumer la responsabilité de leurs enfants? C'est gamin. Comment un type il préfère gagner le SMIC parce qu'il ne veut pas prendre trop de risques avec lui deux, il ne veut pas avoir de soucis, tout ça, plutôt que de prendre des risques et d'aller au bout de ses choix? C'est un gamin. Pourquoi quelqu'un il a peur de tout, il a des faiblesses et tout ça, il dit écoute-moi le soir à partir de 8h, genre moi, c'est un gamin. Pourquoi quelqu'un il a des phobies qui cultive et des malaises, il dit ouais mais tu comprends, moi j'ai peur, on sait jamais, et puis peut-être on va mourir, et puis en plus, en l'an 2000, tu te rends compte, en l'an 2000, on est en l'an 2000. C'est un gamin. À votre taille, c'est des gamins ces gens-là. Il y en a plein dans la vente que je connais. Ouais, ouais. Il y a peut-être même dans la vente, hein, ouais. Ben, c'est normal. Pour les enfants, il y a des dessins animés. D'accord? Pour les enfants, il y a des dessins animés. Pour les adolescents, il y a les 68, la remise en cause, la déchirure. Pour les adultes, il y a la vie. Il y a la vie. D'accord? Oui, mais l'autre, à 38 ans, il va voir le Titanic. Tu mets qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu dois, je suis venu pour vibrer sur une sensation extraordinaire avec des effets spéciaux qui va me faire vivre une puissance. Attends, mais t'es marié, non? T'as une femme? Si t'as envie d'avoir la puissance, si t'as envie d'avoir la passion, si t'as envie d'avoir l'amour, si t'as envie d'avoir la brillance dans les yeux, mais vas-y, lance-toi avec ta femme! T'as besoin de couler un bateau pour ça? Rabotaille, notre société, elle fait rêver des gens de 40 ans! Elle fait rêver des gens de 40 ans! Donc l'autre, il voit Rambo, il se prend pour Rambo. L'autre, il voit le Titanic, il se fait une grande histoire d'amour. L'autre, il va voir Exfil, là, je sais pas quoi, là. Ouais, la mystique, là. D'accord. Comment ça s'appelle? Bon, c'est... Ouais. Donc, chacun... Attends, non, c'est encore pire, là. C'est homme singe, quoi. Non, moi ça me dérange pas qu'un enfant de 7-8 ans, ouais, il rêve. Parce que pourquoi on a besoin de l'enfance? Si vous me dites, si tellement la Torah c'est une école de maturité, alors pourquoi la créer des enfants? C'est dangereux. Le grand danger c'est quoi? C'est que les gens ils descendent pas du dessin animé. Donc fallait faire directement adulte, comme Madame Harrison. À la naissance, 33 ans, hop, adulte! Tranquille? Non. Parce que l'enfant il a besoin d'imagination, parce que l'imagination c'est le bébé de l'ambition. Pour avoir un pouvoir de projection et un pouvoir de créativité, on a besoin de pouvoir imaginer. Donc c'est normal qu'un enfant rêve, c'est normal qu'un adulte ne rêve plus, et c'est normal qu'un adolescent il ait du mal et il soit déchiré entre la fin du rêve et le début de la réalité, ce qui sort. Mais il faut passer les étapes. Tu vas pas faire ta crise d'adolescence à 45 ans. Tu vas pas faire le gamin à 78 ans. Ça y est, maintenant, ça y est, papy, allez! Non. Je lui ai dit que je voulais manger le poisson cuit, elle m'a fait frire, ma parole, je ne parle plus de moi! Va lui dire, moi je ne parle pas à ta mère, va lui dire à ta mère, c'est fini! Comment? 78 ans de vie commune, elle ne comprend pas encore! Je lui ai dit, papy, regarde, j'ai un petit là, il a 8 ans, il ne veut pas boire la soupe, ça va, il a 8 ans, je négocie, je discute, mais t'as 78 ans! Ça suffit! Non! Extraordinaire, hein? Ça veut dire que le rabotin de la maturité et l'âge, et la maturité et le corps physique, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Tu peux avoir des gens très précoces, ou des gens très tardifs, à tous les niveaux. Et nous, notre société, elle a un pouvoir extraordinaire à détruire les étapes de la maturité. Parce que Hollywood, d'accord, c'est bien pour entretenir le rêve, d'accord. La hiérarchie des salaires, elle est basée sur la maturité, donc elle ne va autoriser des gens à développer leur maturité que à partir d'une certaine dose de responsabilité, donc de salaire. Donc elle fabrique un maximum de profits. Plus le syndrome de la génération hérémique qui fabrique encore des profits. Qu'il les pousse à l'autosuffisance, au lieu de les pousser à s'assumer, d'accord? En masse. D'accord? Et après, il dit, mais comment je fais avec la délinquance? Mais il faut arrêter de la fabriquer d'abord, avant de se demander qu'est-ce que je fais avec ce qu'il dit déjà. Mais tu la fabriques! Tu comprends? J'avais dit un article, il y a 8 ou 9 ans, dans Le Monde, ils avaient dit que la première fois que la série Dallas, elle est passée en Algérie, il y a eu des suicides, il a fallu créer des postes de psychiatres. Pourquoi c'est normal? Le type, il a, ils sont assis à table, il y a Mouloud, Ahmed, David, Baba, Wolo, Lange, Mada. Ils sont neufs. Il y a une tomate à partager. Premier épisode de Dallas, un buffet, 72 mètres de long. Lui, il ne voit pas ni Jennifer, ni Baber. Il voit rien que le buffet. Après, il voit que l'autre, comment il s'appelait l'autre, le méchant, hein? Saha. On se verra un peu le cours. D'accord. Il voit que JR, il prend une crise, il prend une crise de nerfs. Maintenant, les occidentaux, ouais, eux ils disent, il prend une crise de nerfs parce qu'il voit qu'il a été trompé, parce qu'il voulait une femme, il l'a pas eu. Qu'est-ce qu'il voit l'autre, l'Algérien? Il voit que Jir, il prend la table de 71 mètres, il la fout par terre. Chlam, chlam. Ils ont dit des suicides. Des suicides. Vous savez qu'il y a 83% des Américains qui souffrent d'obésité chronique. D'accord? Ils ont dit rien qu'avec le déficit de la sécurité sociale, vous avez entendu américaine, qui est fait par les déficits, il y aurait de quoi nourrir le tiers-monde. C'est-à-dire que l'autre qui crève de bouffe, l'autre qui crève de faim. Je ne sais pas si vous en avez de... Extraordinaire, hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre société, elle souffre d'immaturité. Et c'est logique, puisqu'on arrive à Machiar. D'accord? Et Machiar, c'est quoi? C'est le moment où l'homme il va être adulte et il va accueillir le Mashiach, ou l'homme il va être tellement gamin que le Mashiach il va être obligé de lui prendre la main. C'est quoi, la Gemara dit un dor de Rishaim ou un dor de Tzadikim? C'est quoi? C'est quoi Tzadik? Tzadik c'est quelqu'un qui assume. Racha c'est quelqu'un qui n'assume pas. C'est quoi un Racha? Je crois. Racha! Nevela! Non, c'est quoi un Racha? C'est très simple. Un Racha c'est quelqu'un qui n'a pas le courage de se donner la possibilité d'exister. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, il y a la neshama, il y a le psychique, il y a le physique, il y a le vécu. Le physique, le psychique, il est divisé en deux. Yetzerara, Yetzeratov. D'accord? Qu'est-ce que c'est le Yetzerara? Le Yetzerara, les gens ils croient le Yetzerara. Non, le Yetzerara, c'est le... Comment on veut ça? 45 degrés. Le Yetzerara, c'est le confort à la non-existence. Même les psychologues n'ont pas trouvé ça encore. Le confort à la non-existence. Pourquoi? Parce que vous êtes à l'intérieur. C'est vrai que vous avez été créé pour exister. D'accord? Maintenant lui, qu'est-ce qu'il fait? Il te dit, écoute. Pourquoi tu vas te prendre la tête? À réfléchir, à te remettre en cause, à t'adapter, à accepter l'autre, à accepter la vie, à accepter l'épreuve, à te travailler. Reste tranquille à l'intérieur. Reste à l'intérieur. Oui? Et moi, je vais assumer. Moi, je vais réaliser. Moi, je vais agir à ta place. Comment vous savez ça? C'est marqué dans la Gemara. C'est marqué Rechaim Beyaditram. Les Rechaim sont entre les mains de leur Yetzerara. Qu'est-ce qui sort de l'Itan Racha? C'est quelqu'un qui a envie de se laisser aller. Il veut la paix, il veut la menoucha, il veut la sérénité du Ramaba, mais Beolamazé. C'est la parole de la semaine, là, Yishev Yaakov. Ouais. Il est à l'intérieur, il dit bon. Sauf que Yaakov, lui, il avait fini son travail. Il a voulu se reposer. Mais le Racha, lui, c'est quelqu'un qui veut être Yaakov avant de devenir Yaakov. Alors il reste à l'intérieur. Et lui, il prend sa vie en main. Pourquoi? Parce que c'est vrai. C'est quoi la maturité? Et ben voilà, chaque action, c'est une décision. Tu fais des choix, tu réfléchis. Tu assumes ça. Tu assumes ta personne, tu assumes la personne de l'autre, tu assumes tes choix, tu assumes tes décisions, tu assumes ta parole, tu assumes ta pensée. Le Racha, on lui dit, écoute, sois cool, mais ça arrive, moi je prends en main. Donc, quand il y a la tentative d'existence, le Yetzeratov, c'est toi. Il dit, vas-y, le Yetzeratov dit non. Reste là, moi je vais assumer à ta place. Vas-y. Tu veux voir? Vas-y. Ah, je t'oriente tes yeux. Tu veux manger, je t'oriente ta bouche. La preuve. Tu veux l'arrêter, le Racha? Tu veux l'arrêter? Tu lui dis, mais arrête ça, sourd! C'est ce qu'il dit? C'est extraordinaire. Il dit, laisse-moi vivre. Mais il est mort. Il est mort. Pourquoi? Parce que la vie, c'est d'exister. Maintenant, si le Yetzeratov existe à ta place, donc toi, tu n'existes pas. Or, c'est connu depuis la palisse que tous les gens qui n'existent pas sont morts. Même la palisse n'avait pas pensé à ça. Tout celui qui n'existe pas est mort. D'aucun rachat, il n'existe pas, puisqu'il ne s'est pas réalisé, puisque c'est Yetzirah qui se réalise à sa place. Donc lui, il ne s'est pas réalisé. La preuve, il ne prend pas les décisions. Ouais, affliction, colère. Mot de travers. Alors, il ne contrôle pas sa bouche, il ne contrôle pas ses pensées, il ne contrôle pas sa tête, il ne contrôle pas son cœur, il ne contrôle pas ses gestes. Il dit, ah, je te mets une... Ah bah écoute, c'est plus fort que moi, j'ai pas bu. Ma langue a forcé, écoute, j'ai dit, je me sens mal, j'ai envie de manger, je mange. Je dis, mais calme-toi, assume-toi. Non! Il appelle ça vivre. Pourquoi? Parce qu'il confond je veux, j'ai envie. J'ai envie, c'est mon corps qui parle, c'est mon yétera. Je veux, c'est ma volonté qui parle. Mais c'est dur de vouloir. C'est facile d'avoir envie. Il suffit de se laisser aller. Regarde le corps, il a des envies dans le corps. Il fait, allez, lève-toi, allez. Tu dis, non, prends la celui-là, non. Il dit, là, il y a la bombe, la voisine d'en face, allez, oh ouais. Le corps, il t'emmène. Donc, le Yetzirara, c'est le confort de la non-existence. Et c'est aussi la mort. C'est la question de la mort. c'est marqué Rechaim Behayem Nikraim Metim. Les Rechaim de leur vivant sont appelés morts. Maintenant la question, pour ça que Zohar l'a dit, Natati Lefanecha et Tahaim, Vetamavet. Je t'ai mis devant toi la vie et la mort. La vie, c'est exister, assumer. La mort, ne pas exister, ne pas assumer. Maintenant, que tu n'existes pas parce que tu ne sais pas comment on fait, tu n'as pas la Torah. Que tu n'existes pas parce que tu n'as pas le confort physique de le faire. Que tu n'existes pas parce que tu n'as pas l'élasticité psychique pour le faire. Ou que tu n'existes pas parce que tu n'as pas compris ta Neshama, c'est ça ce qu'elle veut. En tout état de cause, tu n'existes pas. De là, un principe que j'ai émis personnellement, si ça ne vous dérange pas, tu dis un rachat, c'est quoi? Un rachat, c'est un tzadik dans l'emballage. Il n'a pas été déballé. Il est tout neuf. Puisqu'il n'a pas réalisé son être intérieur. C'est pour ça que vous trouvez toujours que les rechaïnes sont immatures. Toujours. Ouais. Et qu'ils sont finis. Combien de fois vous voyez un type, un rachat, vous dites, mais ce mec-là, il a un bon fond. Il a un fond de folie. C'est normal, il n'a jamais exploité. Est-ce que vous comprenez ça? Il est resté un petit bébé à l'intérieur. C'est le même type qui te dit, Shabbat, la truc, la cachoute, qui pense à Dakhara. Si tu le frappes, tu dis, écoute, franchement, voilà, on a une école, elle a besoin. Il va te donner 4 millions de francs. Shalim, pourquoi? Parce que comme, regardez bien, comme il n'est jamais devenu adulte juif, il est resté enfant juif. Et un enfant juif, n'importe lequel, vous allez le voir, vous lui dites, donne 4 millions de francs, il donne 4 millions de francs. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pour ça qu'on ne peut pas en vouloir au rachat. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Pourquoi la Torah l'a donné une mitzvah de Tohaha? Pourquoi il faut aider? Pourquoi il faut faire des balais de tshuva? Parce que c'est des gens, ils sont gentils. Mais alors, ou ils savent pas, ou ils ont la flemme, ou ils n'ont pas confiance en eux, ou ils savent pas où ils en sont, ou ils ont acquis ma famille à qui ne les a pas aidés. Mais en réalité, au fond, ils savent très bien que la Torah a la raison. Parce que le même rachat, le même, il te dit, la casse-croûte c'est du bidon, la religion c'est l'opium du peuple, ouais, le kotel c'est le mur des alimentations. Le même, Hachem Mishmor, il a un cancer, ou la safie, elle a une leucémie. Le même qui en avait rien à taper, qui mange le taref devant la synagogue en disant, Shabbat shalom le kulchem. Il va chez un rabbin, il achète son petit tehillim, il demande des brachot. Alors, tu dis, mais, eh ben, où est le porc? Va chez le cardiologue. Il dit, non, écoute, les cardiologues, ils savent pas. Il dit, écoute, elle a un virus, on sait pas ce que c'est, elle a 44 de fièvre, ça fait 8 ans, elle est en anorexie mentale depuis 18 ans, je voudrais une bracha. Mais pourquoi tu veux une bracha? Puisque tu penses que c'est des bêtises, t'arrêtes pas de le crier depuis des années. Il sait très bien que c'est la vérité. Chaque rachat, rappelez-vous, il a un sadique en lui. Ça s'appelle une étincelle. Le problème, c'est qu'elle a une couche, quatre couches comme ça. Et on ne sait pas qu'est-ce qui va casser la couche. D'accord? Il y en a, il voit le cotel, il se met à pleurer. Il dit, ah, j'ai rien compris. Il y en a, il lui faut un dépôt de bilan, un divorce, un truc. Vraiment, la couche, elle est épaisse. Chacun, il a sa couche. Et chacun, il a son marteau-piqueur. C'est normal. Parce que puisque le but, regardez, il y a le monde intérieur, le monde extérieur. Puisque le but, c'est de passer à l'extérieur. Ouais? Et que le décapsuleur, c'est le monde extérieur. Parce que l'épreuve, c'est ce qui fait changer. Et ben, il y a des gens qui évoluent avec l'école. Il y a, ils disent, non, l'école, c'est du bidon. Ils évoluent avec la vie. Il y en a, la vie, ça leur suffit pas. Il leur faut les crises de la vie pour qu'ils évoluent. Il leur faut la maladie, et la tréha, et le divorce, et les malaises, et les coups, pour qu'ils commencent à devenir haram. Pourquoi? Parce qu'ils veulent pas assimiler la réalité. Ils disent, non, moi, il y a pas, moi, tout va très bien, moi, ça y est, moi. Pourquoi je vais me prendre la tête? Moi, prise de tête, prise de tête. Il n'y a pas de prise de tête. Les accouchements, c'est ou naturel, ou péridural, ou césarienne. Or, si toi, tu dois accoucher de toi-même, t'as un petit garçon en toi, ouais? Je veux dire, quand t'es un petit garçon, t'as un jeune homme en toi. Donc, il faut accoucher du jeune homme. Or, la vie, elle t'aide. Tes parents, ils t'aident. L'école, elle t'aide. Le jeune homme, il doit accoucher un homme. Ouais? Alors là, c'est ta femme qui va t'aider. Ta femme, elle va t'aider parce que ta femme, elle t'oblige à devenir un homme, puisque elle est une femme. Et toi, tu es obligé d'être une femme. Après, tes enfants, ils vont t'obliger à être un père, à être une mère. Vous savez, les gens, ils croient. Ils croient qu'on est père le jour de la naissance. On est père 7 ou 8 ans après la naissance de l'enfant. Tu dis, mais enfin, j'étais à la mairie. J'ai fait la nomination, j'ai fait la mira. Tout le monde a dit, ma sœur, papa, tu es enfin papa, tu es papa, tu es papa. C'est pas papa. Pas du tout. Pourquoi? C'est quand ton enfant il a 7-8 ans et qu'il va faire une grosse bêtise et que tu auras envie de lui éclater la tête et que tu vas te retenir et que tu vas sourire et que tu vas lui parler gentiment et que tu vas répondre à son problème, c'est là que tu es devenu papa. Combien ça t'a pris? 8 ans. 8 ans de nerfs. C'est une école. La paparasserie. Ouais. C'est une école. C'est comme maman. L'opère, elle a été jeune fille, femme, mère, une fois, deux fois, trois fois, elle est encore une gamine. Encore une gamine, encore des caprices, trois enfants. Non, 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 c'est pas comme ça, c'est pas comme ça, et c'est pas comme ça, ça sera. Non, non, moi je m'en fous, moi je veux pas maman. Je dis, écoutez, madame, vous avez accouché trois fois, donc vous êtes trois fois maman. Donc c'est très important que vos enfants, quand ils vous regardent, ils trouvent pas la même chose qu'eux. Comment tu vois ça? Tu vois des enfants matures et des parents immatures. C'est tu dis ça moi, j'ai eu ça. J'ai eu un Shalom Bayit, le fils il m'a téléphoné, 12 ans, il m'a dit écoutez, je vais vous expliquer ce qui se passe à la maison. Il m'a dit je vais vous expliquer ce qui se passe à la maison. Et il avait une vision claire. Vous savez pourquoi? Parce que ça c'est une grande loi aussi qui n'a pas été développée par les psychologues, enfin je ne sais pas, moi j'ai pas eu l'occasion d'étudier la fac. Bah bon autre, ouais. Regardez. Dans chaque situation de confrontation, à chaque fois qu'il y a un adulte d'un côté, il y a un enfant de l'autre. Chaque fois. Chaque fois. Donc, alors, par exemple, le patron, il joue l'adulte. Il prend la responsabilité. Donc l'autre, automatiquement, il joue l'enfant. Il dit, qu'est-ce que je dois faire? Dites-moi ce que je dois faire. Il joue l'enfant. Maintenant, si le patron est un enfant, genre il fait, écoutez, je comprends rien, moi mon père m'a mis là, et ben, l'employé va dire, bon écoutez, voilà ce qu'il faut faire, je suis dans la boîte depuis 10 ans. À chaque fois qu'il y a un adulte, il y a un enfant. Il y a un enfant, il y a un adulte. Il y a le rab, il y a l'élève, il y a le rab. Obligé, non? Donc il y a le père, il y a le fils, il y a le fils, il y a le père. Mais si le père joue l'enfant, eh ben le fils, il va être obligé de jouer l'adulte. C'est grave. C'est très grave. Ça, les sociologues anglais, ils appellent ça la chouma. C'est la chouma. Comprenez-vous? Le père, il prend son fils à... Le fils, il prend son père à part, il dit, écoute papa, il faut que tu arrêtes de parler comme ça à maman. C'est pas possible. Vous allez nulle part, tous les deux. Arrêtez vos gamineries. Mais tu te rends compte la honte que ton fils il te dit ça. Mais c'est grave. Et qu'est-ce qu'il fait? Mets-toi tes affaires. T'es un gamin, t'as rien compris. C'est toi qui n'as rien compris. Si toi, alors qu'Hachem t'a mis un enfant face de toi, t'as pas compris que c'était le moment ou jamais d'être un homme et d'être un père, mais qu'est-ce qu'il faut comme panneau indicateur? Comprenez ou non? Tu dis attention. Attention, tu vas au Canada. Oui. Attention, il fait froid. Oui. Tu descends de l'avion, tu vois la neige. D'accord? Tu glisses par terre, tu te prends la tête dans la glace, tu te casses le nez, tu veux pas mettre un anorak, mais qu'est-ce qu'il te faut pour comprendre qu'il fait froid au Canada? Mais qu'est-ce qu'il te faut? C'est pareil! Hachem, il t'a envoyé l'école, il t'a envoyé des parents, il t'a envoyé l'expérience, il t'a envoyé les études, il t'a envoyé des amis, il t'a envoyé la télé, il t'a envoyé le cinéma, il t'a envoyé des films, il t'a envoyé des livres, t'as toujours pas compris qu'est-ce que c'est un père. Alors il arrivait pas, il t'a envoyé une femme, tu dis non, j'ai une... Il t'a envoyé des enfants, t'as toujours pas compris. Mais quand est-ce que tu as traîné? Alors si on a posé tout ça, ce qu'on appelle un domaine de définition, on peut commencer à aborder le sujet. Parce que c'est quand même pas le sujet. Eh oui, c'est pas le sujet, hein, Bataille. Je m'excuse de vous décevoir. Mais on ne pouvait pas parler du livre armé si on ne parlait pas de ça. Pourquoi? Parce que si vous avez compris maintenant qu'un homme, son but, c'est d'exister. C'est pour ça qu'il est texé. Et pour ça, on lui a donné des outils. Alors l'impulsion d'existence, elle sort de la neshama. Elle passe par le psychique. Elle passe par le physique, elle passe par le vécu. Au moment où elle arrive au niveau du psychique, ce qu'on appelle nous le lève, ouais, qui est le cœur, c'est pas le psychique. Rabot, marchavot, belève. En Bretagne, c'est les hommes qui devraient répondre, c'est pas les femmes. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est une synagogue inversée ou quoi? Bon. Alors, ouais, c'est vous qui faites la prière, hein. Alors, donc, si c'est comme ça, on va pas commencer les revendications, hein, si vous voulez. Alors, qu'est-ce qui se passe? Que, il dit Rashi là-bas dans Rachot, sur Akob et Shamaim, Khoush Mirachamaim, Rashi, il dit une chose extraordinaire. Il dit, devant l'homme, il y a le chemin du bien et le chemin du mal. La seule chose qui reste, Ratlon. Un homme, il a la volonté. Ou la volonté de faire le bien, ou la volonté de faire le mal. Attention. Pour exister, un homme, il a besoin de la Neshama. Pourquoi? Parce que la Neshama, c'est le fluide énergétique qui s'appelle la vie. Maintenant, sur ce flux d'énergie qui s'appelle la vie, va se superposer une connotation personnelle qui s'appelle la volonté. C'est pas la même chose. Est-ce que vous me suivez? Je vous donne par exemple, voilà. Un fleuve. 198 000 tonnes de débit seconde. C'est un bon fleuve. D'accord? Vous le mettez dans des gros tuyaux. Après, les gros tuyaux, vous les passez dans des plus petits tuyaux. Après, les petits tuyaux, vous les passez à un flexible. Et flexible, vous mettez au bout un petit pistolet de Karcher. Vous voyez la pression qu'il y a là? Ouh là là, c'est énorme, c'est énorme. La Neshama, au départ, l'énergie, elle est infinie. Elle s'appelle désir d'être. Maintenant, cette énergie-là, elle passe par le psychisme. À ce moment-là, l'homme, il intervient. Yetzera, Yetzera Tov. Qui c'est qui va récupérer cette énergie? Si c'est le Yetzera qui récupère l'énergie, il va l'orienter à l'infini dans le mal. Pourquoi? Parce que l'énergie, elle est d'origine divine. Donc elle est infinie. Alors l'Agmara a dit, Yesh Lomani Rotsevataim. Il a 100, il veut 200. Il a 100, il veut 200. Il n'y a aucun psychologue au monde qui peut expliquer pourquoi est-ce que les gens qui gagnent des milliards, ils veulent le double. Ils savent pas. Par exemple, vous savez que Microsoft, ils gagnent 5 millions de dollars de l'heure. Pourquoi ils travaillent? Même s'ils s'arrêtaient de travailler, ses arrière-arrière petits-enfants, ils gagneraient, disons, 2 millions de dollars de l'heure. Ah, pourquoi ils travaillent? Yesh Lomani Rotsevataim. Ils savent pas. La bouffe, c'est pareil. Un type, il mange. Qu'est-ce qu'il fait? Il vomit pour remanger. C'était malade. Il a une table comme ça. Il a une table de folie. Il pourra même pas manger. Tu viens, tu dis, ça ne dérange pas si je prends un gâteau? Il fait, bon, vas-y, mais... Le sexe, c'est pareil. C'est qu'il y a des gens qui vont voir des prostituées qui ont le sida. Ils vont les voir. Alors que, ils savent qu'ils ont le sida. Combien ils font être affamés? Et ils traînent dans la boue, ils sont traités de chiens, ils ont la honte de... Et ils y vont quand même. Pourquoi il y a une envie infinie dans la bouffe, une envie infinie dans le fric, une envie infinie dans les sexes. Pareil dans la gloire. Un homme pour le kavod, il peut... Voilà, le kavod politique. Monsieur le président, monsieur le chef de direction, c'est de la chambre sénatoriale, des kharadab, des baba... Pourquoi cette envie infinie? Parce que l'origine de la volonté, elle est infinie. Elle est infinie. Donc la nature, elle est infinie. Neshima, neshama. Neshama, l'âme. Neshima, la respiration. La respiration. Pourquoi est-ce que la vie, elle vient avec le souffle et pas avec le souffle? Parce que le souffle, c'est la symbolique physique de l'existence de l'âme. Donc quand un homme respire, il maîtrise son souffle. Ouais. Quand il expire, quand il inspire, il maîtrise le souffle. Le souffle, c'est la concentration. Pour ceux qui ont fait des arts martiaux, ou du yoga, vous savez ça? Non? Oui. Or, si la symbolique du souffle, c'est l'être intérieur, parce qu'il s'énergise en inspirant, et il perd de l'énergie en expirant. C'est connu. Même les gens qui ont fait du sport, ils savent qu'on doit faire un effort en expirant. Ouais, pas en inspirant. Ça va? Je fais comme ça. Donc la neshama, elle sort avec le souffle. Expire. D'accord? De la même manière, la neshama spirituelle, elle sort à ce moment-là. Alors quelqu'un, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se donner les moyens d'optimiser au maximum tout ce que sa neshama contient. Mais sa neshama, elle va arriver au niveau de son épèche. Là, il y a Yetzara, Yetzara Tov. Qui c'est qui va tenir le tuyau? Alors, vous voyez ce jet d'eau dont je vous ai parlé tout à l'heure? Il tient le carcel au bout. S'il prend ce jet d'eau, il l'oriente par exemple sur une plaque d'acier portée au blanc. Elle est chauffée à mort. L'eau, qu'est-ce qu'elle devient? La vapeur. S'il oriente ce jet d'eau sur la terre, qu'est-ce qu'elle devient? De la boue. Cette énergie-là, elle est pure. Il n'y a rien dedans. Ça s'appelle la volonté divine. Moi, dedans, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre une connotation personnelle. Ce qu'on appelle mon choix, ma décision. La direction et l'intensité de mon droit d'existence, c'est moi qui le gère. C'est moi. C'est-à-dire que si je veux avoir une grande intensité ou une petite intensité, c'est moi qui contrôle le débit. Pourquoi? Parce que si moi, regardez bien, cette énergie qui vient de l'Aïshama, je la bloque au niveau psychique, parce que je ne me suis pas travaillé le psychique. Je ne me suis pas travaillé les midotes, la ira sommeil. Je la bloque au niveau physique, parce que je ne l'ai pas travaillé. Donc il y a une déperdition extraordinaire. Vous pouvez trouver au départ 3 milliards de watts, parce qu'il y a une grande Aïshama, et à l'extérieur, une petite... 0,02 watts. Vous savez, un néon, c'est les petits néons qu'il y a sur les petites machines à laver, quand vous allumez pour que ça s'allume. C'est 0,02 watts. C'est zéro, non? Ça veut dire que, pourtant le type, il a des capacités, puisqu'il a une échelle comme tout le monde. Alors comment ça se fait qu'il sort 0,02 watts? Alors, vous-même, vous lui dites, ah bah non, c'est pas une lumière, celui-là. Parce qu'il y a une déperdition au milieu. Énorme! Il ne se donne pas le droit d'exister. Les psychologues, ils disent, il ne se donne pas le droit au bonheur. C'est une autre façon de parler. Encore moins qu'ils ne donnent pas les moyens. Oui? Alors, si vous dites qu'à ce niveau-là, seulement, qu'au moment où le débit du fleuve il va arriver, et qu'il arrive au niveau du psychique. Et là, Yetzera, Yetzera Tov. Quand quelqu'un, il va prendre ça en main, ouais, on appelle ça un sadique. Quand quelqu'un, il veut pas le prendre en main, il dit, laisse couler, laisse faire le corps, laisse faire les envies, laisse faire les passions, laisse faire la société, laisse faire le conditionnement, on appelle ça un rachat. C'est là qu'il est le libre arbitre. Juste à cet endroit-là. Est-ce que quelqu'un, il va prendre sa vie en main, ou il va prendre à prendre en main? C'est tout. Alors à ce moment-là, regardez bien, il va exister. Exister. Mais, moi j'ai pas un tableau. Regardez. Il y a un endroit. Regardez ça. Regardez comment c'est fort. Ça c'est un homme, d'accord? Tout le schéma qu'on a développé maintenant. Tout le schéma qu'on a développé maintenant, il est là. D'accord? Il est là, il a fait ce travail, il a fait. Il arrive là. Hop, il va sortir maintenant, il va exister. Hop! Qu'est-ce qu'on t'a demandé à toi? Seulement de parler. Vous savez, c'est marqué Haïm Bamavet, Beyad Alashon. Pourquoi? Parce que pour exister, c'est à sortir le souffle. Le véhicule de la parole, c'est le souffle. Le véhicule de la volonté, c'est le souffle. Achrespira Maléou, c'est marqué. Et là, j'ai ta bouche, on va te la remplir. Tout ce qu'on demande à un homme, parler. En d'avoir un Vishna Ratson, il n'y a rien qui tient devant la volonté. Rien que tu exprimes ton problème. Maintenant, qu'est-ce que tu fais toi? Toi, tu as un potentiel ici. Tu exprimes ton potentiel, il vient là. On appelle ça la tefila. Toi, tu viens, rien que tu parles, t'es là. C'est tout. Alors, on va dire au niveau intellectuel, ce que ça donne. Illusion, ambition, décision, regardez bien, implication, réalisation. Alors, la partie où tu interviens, c'est implication. Tu te mouilles. Tu t'impliques. Là. Là, il se situe le choix humain. Maintenant, rappelez-vous de ça. À partir du moment où moi, je me suis impliqué, donc j'ai fait sortir mon impulsion d'existence dans la face externe du monde, après ça, j'interviens plus. Pourquoi? Moi j'ai une idée. Par exemple, j'ai une idée de business. Tiens, j'ai une idée de folie. Oh là là là, j'ai une idée de folie. Alors elle est là d'abord. Après je dis, mais comment je vais la mettre en place? Alors je dis, je fais une réflexion. Très bien. Après j'ai mis tous les éléments de la réflexion. Je dis, tiens, je vais prendre une décision. C'est encore psychique. Alors vous savez que la décision, c'est la moitié de la réalisation. Donc maintenant que j'ai une décision dans la tête, je dis, tiens, maintenant je vais passer à la réalisation. Mais c'est faux. Avant la réalisation, il y a l'implication. Moi maintenant je m'implique. Alors, je dis, tiens, je m'implique. Moi, par exemple, je vais mettre de mon argent. Alors je vais mettre de mon temps. Je vais mettre de ma vie. Hop, regardez bien. Je vais exister pour cela. Je m'implique. Mais après, regardez bien, ça dépend plus de moi. Pourquoi? Parce que. Vous pouvez couper, ça me dérange pas. Ah, c'est peut-être le mien. Ah, merci. Donc, maintenant, pourquoi ça dépend plus de moi? Parce que regardez bien. Moi je suis une personne, toi t'es une personne, toi t'es une personne, la matière, tout existe déjà. Akadosh Baruch Hu, il a mis en place un système. Oui ou non? Ce système, il l'a mis en place depuis la création du monde. Parce que quand Akadosh Baruch Hu, il a dit Vayehi, ouais, il a créé toute la matière pour 6000 ans. C'est-à-dire à Kol Bidei Shamayim, Chutz Miyarei Shamayim. Tout est mis en place. Alors, le monde physique, le monde de la matière, le monde vivant. Le monde minéral, le monde végétal. Tout est mis en place. C'est-à-dire au niveau physique, matière et événementiel. Qu'est-ce que c'est l'événement? L'événement, c'est l'organisation de la matière. Akadosh Baruch Hu, il était obligé de mettre en place tous les systèmes physiques depuis le départ. Pourquoi? Parce que tout est interactif. Alors là, maintenant, vous avez tout ça dans la tête, on passe à un autre domaine. Maintenant, moi, je vous ai expliqué le fonctionnement intérieur. Maintenant, on va regarder un petit peu le fonctionnement extérieur. Maintenant, chaque personne, il a le même type de fonctionnement au niveau passage extérieur-intérieur, d'accord? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Regardez. Akadosh Baruch Hu, au départ de la création du monde, il a créé ce qu'on appelle le Ilé. C'est quoi le Ilé? Le Ilé, c'est les quatre éléments de base qui sont la base de la création du monde, qui sont l'eau, le feu, l'air et le carbone. Maintenant, tout le monde dans le monde, rien de nouveau. Vous savez que le nombre de molécules depuis la création du monde, il n'a pas changé, d'accord? Rien ne se perd, tout se transforme. C'est quoi? C'est que juste on réorganise les molécules de manière différente. Maintenant, ça c'est au niveau de la gestion de la molécule. Alors au niveau de la gestion de la molécule, au niveau interaction des matières, c'est-à-dire que par exemple, vous avez le corail qui se développe, ouais. Il y a les marées, il y a l'interaction des planètes sur l'atmosphère, il y a le développement d'hydrogène par rapport à la masse d'oxygène, il y a les pressions, il y a l'électricité statique qui se développe à l'intérieur de l'atmosphère. Tout ça c'est interactif. Ça, je n'ai pas besoin de voir, vous allez à la fin pour vous expliquer. D'accord? Maintenant, si vous comprenez que tous ces éléments-là sont interactifs les uns avec les autres, pourquoi? Parce que regardez par exemple, mon corps, mon corps, il vient de quelque part. Il vient d'où ton corps? Ben, mon corps, il vient de mes parents. Mais non, tes parents, ils ont mangé quelque chose, et ces vitamines qu'ils ont absorbées ont été utiles au développement du fœtus. Alors, parce qu'elles ont été redistribuées jusqu'au fœtus. Mais elles viennent d'où? Ben, elles viennent des pommes, des poires qu'ils ont mangées, de la viande. Mais et ces pommes, ces poires, elles viennent d'où? Ben, la pomme, elle vient par exemple de la terre. Ben, non, elle vient de l'arbre. Et de l'arbre, elle vient d'où? Elle vient de la terre. La terre, elle vient d'où? Ben, la terre, elle vient, la terre, il y a une partie de l'humus, c'est les feuilles, il y a une partie des choses qui pourrissent, c'est les choses qu'on met en terre, et puis il y a aussi des cadavres qu'on met en terre. Oui. C'est initial de quoi? Il veut dire, quand tu manges une carotte, peut-être que tu manges ton arrière-grand-père. C'est pas vrai. Alors, mets un peu de cadavre, là. C'est pas faire un caliche à la fin de la carotte non plus, mais bon. Pourquoi? Rien de se perd, se transforme. Maintenant, il y a une interaction entre les éléments pour qu'il y ait équilibre. Ce qu'on appelle la théorie des chaos. Vous savez que les scientifiques, ils ont trouvé une théorie extraordinaire, ça s'appelle la théorie des chaos. C'est quoi? C'est que le monde, il contient des centaines et des centaines de phénomènes qui, si on les prend indépendamment, ont de quoi faire exploser le monde et que Baruch HaShem, le monde continue à exister. Par exemple, vous savez l'histoire de l'interaction des masses d'air chaud et d'air froid. Ils savent que si un papillon, par calcul spéculatif, d'accord, ils savent que un papillon qui bougerait, qui battrait des ailes dans le Pacifique, s'il y avait une interaction entre tous les courants d'air, ouais, de manière logarithmique, on arriverait à un raz-de-marée en Bretagne. Tu dis Baruch HaShem, les papillons, ils sont rares au Pacifique. Non, parce qu'il y a un patron qui, comme il a dit Einstein, Dieu ne joue pas au dé. Si Einstein il a compris, alors qu'il n'a jamais mis les tétilines. Alors qu'est-ce que ça devait être un juif qui l'aimait tous les jours? D'accord. Alors, donc il y a une interaction au niveau des courants d'air. Il y a une interaction au niveau, du développement de la matière. Il y a une interaction au niveau du développement des corps. Il y a une interaction au niveau de la dérive des continents. Vous avez bien vu, en Turquie, ils n'étaient pas sûrs. Maintenant, ils ont compris. Je pense qu'ils ont compris. D'accord. Donc, toutes ces interactions-là, elles font que le monde, il ne peut exister que parce qu'il y a une organisation mondiale du commerce. Non, une organisation mondiale, ouais, qui fait exister tout ça. Voilà. Une gestion globale. Cette gestion globale, attention, si elle existe au passé, elle existe au futur. Et comme elle existe au présent, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si le monde a existé, et si le monde existe, c'est que Baruch HaShem, l'interaction entre les différents éléments, elle continue. Ils ne comprennent pas pour ça. Hein. Ils ne savent pas. Hein. Ouais, Big Bang, développement, évolution, mais ils ne savent pas pourquoi. C'est-à-dire, au niveau probabilité, le monde, il n'a aucune raison de continuer à exister. C'est comme si, par exemple, vous voyez un éléphant, vraiment, qui rentre dans un magasin de porcelaine, et il y a une porcelaine qui tombe sur le pied du vendeur, il y en a une deuxième qui rattrape avec sa tête, il y en a une troisième qui rebondit sur le coussin, il y en a une quatrième, il y a 18 347 porcelaines, et ça fait 11 237 fois que l'éléphant rentre et sort, et il n'y a rien de cassé. Ah, tu dis, vraiment? Eh ben, dis donc, comme disent les scientifiques, il a une baraka de folie. Ouais, et les chachamim disent, il a une beraka de folie. C'est pareil. Ouais. Si vous comprenez ça, vous comprenez que Akadosh Baruch Hu, non seulement Baruch HaShem, il fait exister le monde, mais Baruch HaShem, si le monde existe, c'est qu'il a existé. C'est-à-dire qu'il est obligé de l'avoir fait exister pour faire exister. Puisqu'il y a une logique mécanique. Vous savez le jeu là, des morceaux de sucre là? Voilà. Or, si au lieu de regarder simplement, comme on l'a fait tout de suite au niveau du monde physique, du monde biochimique, du monde génétique, on va le regarder au niveau du monde personnel. Par exemple la parnassa. Vous savez la parnassa? La parnassa. On est un peu concerné par ça. La parnassa, ça veut dire quoi parnassa? Parnassa, ça veut dire parnasse. C'est vraiment parnasse. Ça vient par miracle. D'accord? Pourquoi? Parce que, c'est quoi la parnassa? La parnassa, c'est la redistribution individuelle des moyens collectifs. Par exemple, toi, tu dis, moi, ah ben, faut prendre des notes, regardez, il y a des gens qui ont l'habitude. Ouais. Il y a quelqu'un, par exemple, il vend des pulls. Il vend des pulls. Et qui dit, voilà, je suis marchand de pulls, je suis rue Beauregard, je suis fabricant et vendeur de pulls, en gros. D'accord. Il dit, tu vends des pulls, très bien. Il dit, mais dis-moi, ta parnassa, elle dépend de quoi? Et il m'a parlé à ça, parce que j'ai le sens de la vente, je suis un chef là-dedans, moi, je sens le marché. Hazak, c'est bien. Bon, t'as fini de faire le gamin? T'as fini de faire le gamin? T'as fini ou non? Toi, tout chef de marché, ça fait 30 ans, ouais, que t'as éclaté le sentier, ouais, si un haram qui va à Taïwan et qui ramène des pulls à 2,32, il va te les mettre en face de toi et tu vas mourir devant lui. C'est pas vrai. Et le marché, où est le marché? Tu vas faire le marché. Mais à midi et demi, quand tu as tous tes jetés par terre. Celui qui est haram, il sait très bien que la parnassa, c'est une chose énorme. Pourquoi? Parce que tu dis, bon, il faut des clients, c'est sûr. Il faut une boutique, c'est vrai. Il faut des étalages, il faut des produits, d'accord. Mais dis-moi, comment tu fais ton pull? Il dit, mon pull, ben, je le fais faire ici, là, au deuxième étage, rue de Cléry. Ah bon? Comment tu payes? Oh, je paye pas cher, j'ai un bon deal, je paye 8 francs le pull. Pourquoi tu payes 8 francs? Il dit, parce qu'ils sont exploités. Pourquoi ils sont exploités? Parce que c'est des Sri Lankais. Donc, heureusement qu'il y a la dictature au Sri Lanka. Parce que si le Sri Lanka, c'est un pays civilisé, la façon, tu l'as payé 84 francs. Là, tu l'as payé 8 francs 40. Dis merci à la dictature. Bon. Avec quoi tu fais? De la laine. D'où vient cette laine? Moi, cette laine, elle vient des Indes. Comment tu payes? Oh, pff, c'est pas cher, 100 francs la tonne. C'est pas cher du tout. Pourquoi ça coûte 100 francs la tonne? Ah, bah, tu sais, les pays se développent, hein, on leur prend leur matière première et on leur donne des colis en plastique. Dis merci aux pays se développés que la laine n'est pas chère. Et pourquoi la laine n'est pas chère? Parce que les matières se développent. C'est comme les Américains, ils ont besoin du manganèse. Donc, ils veulent pas que l'Inde se cultive. Donc, ils continuent à leur donner des usines clés en main. Comme ça leur évite de développer leur technologie, donc de devenir haram et devenir indépendant. Mais pourquoi ils maintiennent là-bas? Parce que comme ils maintiennent là-bas, parce que ça, si tu les maintiens pas comme ça, ils vont développer la force atomique à un niveau trop grand. Et alors, s'ils développent la force atomique, ils disent oui, mais ils sont musulmans, donc ils vont en passer à leurs copains les Palestiniens. Donc, le prix des haleines, il dépend de la paix au Proche-Orient. Toi, ton petit pull à toi, là, posé sur l'étalage, il implique des millions et des millions de personnes. Que Akadosh Baruch Hu l'organise pour que ton pull il arrive là. Ça, c'est juste pour la fabrication du pull. Je te parle pas de la fabrication de l'étagère. Je te parle pas du désir du client. Pourquoi il vient chez toi? Pourquoi il va pas ailleurs? Pourquoi il a besoin d'un pull maintenant? Parce qu'il fait froid, dis merci. Donc, combien t'interviens dans tout ça, toi? Alors, il y a une Gemara dans Tanit qui est difficile à comprendre, et pourtant, il faut la comprendre si on veut comprendre ce cours. Là-bas, il y a une Gemara incroyable. Il y a marqué un rave, je crois que c'était l'heure qu'un âge, je m'en rappelle plus, Barbonos. Un jour, il dort. Il était d'une pauvreté effroyable. C'est un type qui avait jamais eu un mazal, rien. Chaque fois qu'il faisait un truc, ça se plantait. Et un jour, il était en train de dormir, et ses élèves étaient à côté de lui, ils dormaient. Et dans le rêve, il a pleuré, et après, il a rigolé. Alors, quand il s'est réveillé, les élèves lui ont dit, écoute, c'est bizarre, t'as pleuré, après t'as rigolé, pourquoi? Il a dit, voilà, j'étais en train de rêver, je parlais à Hachem. J'ai dit, Hachem, pourquoi j'ai une pauvreté pareille? Donne-moi, qu'est-ce que tu fais? Une richesse, Hachem, il a des milliards, et des milliards, et des milliards. Il peut pas me donner, je me souviens, ou là, 2 ou 3 ou 4 ou 5 gigas de dollars. C'est vrai que ça existe les gigas de dollars? Vous savez pas? Il faut être un petit peu avec, dans la Banque mondiale. Bon. Hachem, il a dit, écoute. Comme ça, raconte la Gemara. Il a dit, écoute. Je pourrais, regarde bien, je pourrais peut-être te donner un mazal de Hachirut. Mais, pour que toi tu aies un mazal de Hachirut, il faudrait que je change le monde depuis la création du monde. Et si je refais le monde depuis la création du monde, peut-être que tu vas tomber sur un mazal de Hachirut, mais c'est pas sûr. Alors, le Rav Shmulevitch, il demande, il dit, je comprends pas. Ah, qu'est-ce que je vois au cours? Qu'est-ce que ça lui coûte à lui de donner 10 000 ou à 15 000 ou à 20 000 francs? Qu'est-ce que ça lui coûte? Il fait un petit miracle, l'autre il creuse en dessous de son lit, il trouve un trésor. Ah, un trésor! Ah, ah! Et c'est tout! Qu'est-ce que ça peut lui faire? Non! Pourquoi? Et pourquoi il a dit qu'il fallait qu'il change tout, de la création depuis, Maas et Bereshit, pour arriver à ce que cette personne-là, peut-être, elle va être riche, je ne suis même pas sûr. Alors, ouvrez bien vos oreilles. Un homme, c'est vrai, il a un corps. C'est vrai, il a une personnalité. C'est vrai, il a une neshama. Et c'est vrai, il a un vécu. Mais quand moi, je m'inscris dans mon vécu, je m'inscris grâce à ma personnalité. C'est quoi? Ce sont des données qui sont nécessaires pour l'épanouissement de ma neshama. Alors maintenant, venez, je vais regarder sur les deux plans. Je vais regarder le plan humain, le plan divin. Le plan humain, c'est quoi? C'est que moi, MOI, j'ai envie de vivre. Mais moi, je suis maillon d'une longue chaîne qui va de Adam et Eve jusqu'au Mashiach. Mon corps, il fait partie de la nature. Mon psychique, c'est un système d'exploitation. Oui. Ma neshama, c'est une recomposition à partir d'une neshama première qui s'appelle Adam et Eve et qu'on a redistribuée dans tous les corps qui à venir. Le but, c'est de faire que la neshama, elle fasse son travail. Quelle neshama elle fait? Quel travail elle fait la neshama? Elle existe, elle se réalise spirituellement, et hop, elle monte au lava. Mais si l'étincelle qui sort, elle ne se réalise pas spirituellement, elle revient en Gilgul, dans une autre Neshama, pour refaire le même trajet. C'est-à-dire qu'il est impossible d'atteindre l'Olam Haba tant qu'on n'existe pas. Donc déjà, les gens qui n'existent pas, ils vont pas l'Olam Haba. C'est sûr. Vous comprenez ou non? Je dis bien sûr. C'est quelqu'un qui s'assume pas psychologiquement, il ne peut pas l'Olam Haba. Parce qu'il faut déjà exister pour confronter la réalité qui contient la mitzvah, que si on l'optimise, elle nous emmène au Baba, et si on l'optimise pas, elle revient au monde Gilgul. Ça va? Maintenant, ça c'est le projet au niveau divin. Maintenant, pour atteindre ce projet divin, on m'a donné des caractéristiques psychiques qui sont adaptées à mon travail. Des caractéristiques physiques qui sont adaptées à mon travail. Et des caractéristiques vécues qui sont adaptées à mon travail. C'est-à-dire que si la personne est pauvre, si elle est riche, si la personne est orphelin, si elle est veuf, si la personne... Chaque élément de la vie, ça fait partie du programme spécifique qu'on m'a donné pour développer mon élément basique de Neshama. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, on a dit au niveau physique, il a été obligé de préprogrammer toute la nature physique, puisque toute la nature est interactive les uns avec les autres. D'accord? Or, puisqu'il y a une mécanique dans la mécanique physique du monde, donc ce qui existe à l'époque, ça existe aujourd'hui, c'est parce que, justement, il y a une mécanique, des petits morceaux de sucre. D'accord? Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire que si, par exemple, aujourd'hui, la Bretagne, elle est à sa place, c'est parce que l'érosion des falaises, elle s'est faite à une certaine vitesse qui est liée à la vitesse des marées, qui est liée au déplacement de la Lune. Donc, l'existence de la Lune, elle implique les marées, qui implique les vagues, qui implique la falaise, qui implique la Bretagne. Donc tout est lié interactif au niveau physique. Or, de la même manière qu'il y a un niveau physique d'implication et d'organisation dans la matière, il y a aussi un sous-projet qui s'appelle le projet divin, qui fait que pour que toi tu puisses te réaliser, regardez bien, pour tel niveau de travail, pour tel but, pour tel exercice, il faut telle circonstance, telle caractéristique, tel vécu, tel temps. Donc la Gemara elle dit, quand on amène la tchipa, la goutte de sperme, devant Hachem, on dit qu'est-ce qu'on va faire avec? Akadosh Baruch Hu, il a devant lui déjà, regardez bien, les 6000 ans de matière, plus, et dans la matière, il y a le décor, il y a l'événement, et il y a le corps. Donc imaginez Akadosh Baruch Hu, il a des petits wagons. Chaque wagon, c'est un corps. Ce corps, il est obligé d'être préprogrammé, puisque ton corps, il fait partie de la nature. Il va retourner à la nature. D'accord? Donc le corps, il est préprogrammé. Comme le physique, il est préprogrammé. Le décor, il est préprogrammé. Mais la relation d'existence que tu vas avoir avec le décor, elle n'est pas programmée. Comment on appelle ça? La Yirat Shamayim. D'accord? Maintenant, quand la goutte elle arrive, l'ange il amène la goutte. Il dit à Hachem, qu'est-ce qu'on va faire avec? Donc, elle dit, voilà, il y a un corps qui doit arriver là. En 1972, il doit y avoir un corps qui doit arriver dans le monde. Ce corps, il est déjà calculé, c'est normal, puisqu'il y a un petit bout, c'est une falaise d'Étretat, il y a un petit bout, c'est un corail de Guatemala, l'autre côté, c'est la peau du Galapagos, ça va. Comprenez ou non? Donc ce corps, il est préprogrammé. Ça va ou non? Le corps, il est préprogrammé. Alors Hachem, il dit, bon, quel Neshama on va mettre dedans? Ah, il dit, ben, d'après les Gilgulim d'avant, il s'est fait un cumul de petits morceaux de Neshama qui ont été récupérés un peu partout parce qu'ils n'ont pas été optimisés par les vies antérieures des gens. Elle arrive à une Neshama, il dit, cette Neshama, elle doit venir dans ce moment-là pour faire un travail. Donc on va la mettre dans un corps. Je dis, mais attends, je vais la mettre dans un corps. Mais pour qu'elle puisse atteindre son niveau d'épanouissement, elle a besoin, par exemple, d'un événement difficile qui s'appelle, par exemple, Agmar a dit, si quelqu'un, enfin, Shalom, il perd des enfants, c'est parce qu'un jour il était meurtrier, et lui-même il a créé des orphelins. Donc lui, il faut qu'il sente la douleur de ce que c'est l'orphelinat, ou qu'il sente la douleur de ce que c'est comment ça s'appelle, le fait de perdre des enfants. Donc puisque lui il a tué des enfants, donc lui il avait tué des enfants pour qu'il ressente ça. Et ce qu'il va ressentir, c'est le tikkun de ce que lui il a fait ressentir à l'époque. C'est quoi le tikkun? C'est pas genre, tu as fait, tu vas payer. Non, oh, je vous prie, il n'a rien à faire. Et je vous prie, ne punis pas. Et je vous prie, il te met en fonction. C'est comme si toi, tu viens pas le jour de l'interro de maths. Alors je te dis, ben voilà, eh ben, tu vas faire 2 heures de colle, tu vas faire 2 fois l'interro. Ah, tu dis, ah, t'es méchant avec moi? Non. Je sais que le refus de l'interro, c'est un manque de maturité. Donc moi, je t'oblige à assumer l'heure de colle, ce qui s'appelle un rétablissement de maturité. Saha. Les heures de colle, on appelle ça les Gilgulim. Tu veux pas assister au cours? Tu reviens. Est-ce que tu fais pleurer ta mère? D'accord? Donc, si tu comprends ça, un homme, il a besoin... Donc, l'ange, il vient, il dit, alors, qu'est-ce qu'on fait avec cette Neshama? Alors, Hachem, il dit, bon, alors on va le mettre dans tel corps. avec tel type de parents, avec tel milieu familial, avec tel malaise, avec tel mal-être, avec tel bonheur, avec telle joie, avec telle possibilité, avec tel corps physique, avec tel événement, avec tel scénario, avec tel vécu. Maintenant, hop, on vient à l'intérieur. Maintenant, monsieur, ou il va exister ou il ne va pas exister. Alors, si vous allez me dire, alors, maintenant, puisqu'on a été obligé de préprogrammer l'existence du corps, et on a aussi préprogrammé l'existence du décor, puisque le décor, c'est aussi des molécules. Et on a dit que la programmation, elle est obligée pour que le monde puisse subsister au niveau physique. C'est des scientifiques qui ont dit ça, sûrement. Maintenant, vous allez me dire, mais alors, c'est un déterminisme total. Pas du tout. Puisque, dans le monde, il y a marqué que rien n'est bon, rien n'est mauvais. Rien. Ça dépend si t'en fais du bien, si t'en fais du mal. Par exemple, il y a des gens, ils ont tout pour être heureux, ils sont malheureux. Il y a des gens, ils ont rien pour être heureux, ils sont heureux. Il y a des gens, ils ont un petit bouton, ils font une déprime. Il y a des gens, ils ont un cancer, ils ont la pêche du tonnerre. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire, là on apprend un grand principe, c'est que la taille de l'épreuve dépend de la taille de la personne. Si la personne est grande, l'épreuve est petite. Si la personne est petite, l'épreuve est grande. Or qu'est-ce que c'est l'épreuve? Rappelez-vous, l'épreuve, c'est la proposition extérieure d'épanouissement intérieur. Oui ou non? Voilà, je vous coupe, t'envoie une épreuve, c'est-à-dire, écoute, je te fais une épreuve plus 2, ça veut dire que tu es capable de plus 2. Alors, si toi, tu es mature, donc tu dis, oui, je suis capable de plus 2 puisqu'on m'envoie plus 2, et tu assumes plus 2, tu deviens plus 2. Si tu dis non, je ne suis pas capable, j'y arrive pas, je ne suis pas au courant, je ne suis pas religieux, je n'ai pas grandi dans la religion, je ne sais pas, tu redoubles. Alors les gens qui disent, ouais, ça fait 10 ans que j'ai les mêmes problèmes. Tu refais le CP, Rabbi. Ça fait 10 ans que tu redoubles le CP. Il faudrait passer à autre chose. Ou ils te disent, ouais, avec tous mes enfants, j'ai le même type de problème. Chaque enfant, c'est une école. Ma femme, c'est une école. Mon enfant, c'est une école. Le voisin, c'est une école. Le goy, c'est une école. Les épreuves, c'est une école. Les contraventions, c'est une école. Tout ça, c'est des écoles pour te dire, réveille-toi. Et toi, tu dis, ah ben, tu vas en faire des heures de colle, mon frère. Pourquoi? Parce qu'il faut que je m'épanouisse. Je me réalise. Or, si l'épreuve, c'est le déclencheur de maturité, donc c'est le déclencheur d'existence, donc à Kadosh Baruch Hu, il a préprogrammé des épreuves pour que moi, je puisse me réaliser. Tu dis, mais si c'est préprogrammé, alors j'ai pas de libre arbitre? Non, c'est faux. Puisque regarde bien, puisque tu vois bien que ta réaction à l'épreuve ne dépend pas de l'épreuve, mais de toi. Donc si tu prends bien l'événement, il te fait grandir. Si tu le prends mal, il ne te fait pas grandir. Donc il y a des gens qui rigolent dans les camps de la mort, et des gens qui s'angoissent à Miami Beach. Il y a des gens qui souffrent parce qu'ils sont gros, il y a des gens qui rigolent parce qu'ils sont gros. Il y a des gens qui kiffent leur maigreur, il y a des gens qui s'angoissent de leur maigreur. Il y a des gens qui assument leur petitesse, intelligence, parce qu'ils ont une intelligence de la vie qui n'est pas une intelligence intellectuelle. Il y a des gens qui ont une grande intelligence intellectuelle, mais une grande bêtise de la vie. Donc ça veut dire quoi, Rabotaï? Il n'y a pas de mauvais outils. Tous les outils sont bons. Donc le fait qu'il soit déterminé, c'est pas le problème. Le problème, c'est qu'est-ce que tu fais avec. Regardez par exemple, Victor Hugo, il avait une plume. Vous savez ce qu'il a écrit? Nous, on a des stylos feutres. Vous savez ce qu'on a écrit? Donc tu vois pas que c'est pas un problème de stylo. Donc le fait que les moyens soient déterminés, c'est pas gênant. Par exemple, tu sais très bien que l'année prochaine, quand tu rentreras en CM1, eh bien, on connaîtra ton professeur, on connaîtra ton livre, on connaîtra tes cahiers, on connaîtra ton stylo, on connaîtra tout. Le problème, c'est qu'est-ce que tu vas devenir grâce à ce CM1. Et si tu dis, ah ouais, mais alors si le programme, il est déjà établi, alors moi, j'ai rien à faire, moi, là-dedans, eh bien, je vais rester en CE2. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de bien. Tous les bons choix, ce sont des choix qu'on assume. Et tous les mauvais choix, ce sont des choix qu'on n'assume pas. Donc, c'est quoi un choix qu'on assume? Implication, réalisation. C'est quoi un choix qu'on assume pas? Non-implication. À chaque fois que je ne m'implique pas, je subis. La vie, elle m'écrase, parce que je ne la prends pas en main. Et si je la prends en main, c'est moi qui la maîtrise. Alors c'est vrai, les gens disent, je suis débordé par les événements, je suis écrasé par le poids de la vie, les circonstances m'ont poussé à truc, le mouvement de la vie. Mais non, mais ça va pas, ta tête. Non, mais ça va pas. T'as vu un mec, il a été agressé par son stylo, qui a pris sa feuille en main et qui lui a fait une disserte bidon. Il a pris son stylo, il a massugé son sujet et il a fait une disserte bidon. Donc c'est jamais la vie qui t'agresse. La vie au maximum. Elle t'engraisse. Mais elle peut pas t'agresser, la vie. Donc c'est toi qui dois l'agresser, c'est pas elle qui t'agresse. Si vous comprenez ça. Ouais. Alors, le libre arbitre, c'est quoi? Le libre arbitre, c'est prendre ta vie en main. Maintenant, c'est vrai que si tu ne la prends pas en main, c'est le Yetzara qui va la prendre en main. Et là, tu perds ton libre arbitre. Pourquoi? Vous savez, les gens, ils disent, ben oui, moi, je ne veux pas trop m'impliquer religieusement parce que je veux garder mon libre arbitre. J'adore cette blague. J'adore. Et là, parce que si je mets une barre comme ça, je perds mon libre arbitre. Donc, qu'est-ce que je fais? Je reste, tête de goy, juste à Mila, minimum. D'accord? Comme ça, je fais ce que je veux, et je fais ce que je peux, et je fais ce que je dois. Je garde mon identité juive au milieu de la cité païenne. Un beau taille. Je vous donne un exemple simple. Je me marie avec ma femme. On est sous la roupa. Je lui dis, ma chérie, aujourd'hui, nous sommes mariés. Elle me dit, oui, nous sommes mariés. Si je t'aime, mon amour, tu es un amour, je t'aime. J'ai juste une question à te poser, simple formalité. Pourrais-tu me dire, à titre de prévention vraiment inutile, si tu seras fidèle? Dans le même élan de sincérité, ma femme me dit, suis-je prophétesse? Est-ce que je peux m'engager? Est-ce que je connais l'avenir? Qui sait si notre moyen de palier ne sera pas Tom? Imagine, t'as un voisin de palier, Tom. Tom. Et c'est Tom. C'est vous qui l'avez dit. Moi, je parlais de Thomas. Vous voyez, diminutif de Thomas. D'accord? Alors, tu dis à ta femme, tu dis, écoute, attends, on se marie, on passe sous la roupa, faudrait que tu t'engages. Tu peux t'engager, non? Est-ce que vous comprenez? C'est pareil. Il y a une équipe de commandos israéliens, ils doivent partir en Jordanie pour aller piquer des missiles. D'accord? Ils sont préparés, ils sont tous prêts. Ils vont partir, tu t'engages, t'es prêt, on est vite, on y va, on va tuer 5000 mecs, on doit attraper ça, on doit passer là, toutes les minutes, tout est calculé, les hélicoptères, les besoins, partout. Maintenant, toi, t'es avec nous. Il y en a un, t'es avec nous. Écoute-moi, la politique israélienne en ce moment. Qu'est-ce que tu fais toi? Tu dis, oh, tu viens pas toi? Alors quand tu lui dis ça, tu dis, il faut que tu saches ce que tu veux, dis pourquoi. Il dit pourquoi? Et j'ai envie de garder mon libre arbitre. Pareil la femme, elle dit, moi j'ai envie de garder mon libre arbitre. Mais quel libre arbitre? Eh oh, ou t'es avec moi, ou t'es pas avec moi. Ça ne veut rien dire, libre arbitre. Ça veut dire quoi? Libre arbitre, c'est une séquence qui dure une demi-seconde. Et après, ou t'es avec Hachem, ou t'es contre Hachem. Ça veut rien dire de rester au milieu. Les gens disent, moi je suis pile pas trop religieux, pas Chas v'Shalom, goy. D'accord, parce que quand même, je donne 17 000 francs au KKL, faut pas non plus exagérer. Je passe toutes mes vacances à Ashkelon, ouais. Je prends que Elal, c'est ce qu'on appelle une certaine quand même pratique de la religion. C'est assez pratique comme religion, faut bien le reconnaître, surtout si on prend pas les repas cachers. D'accord. Donc, les gens, ils croient que comme ça, ils sont restés juifs avec la culture du libre-arbitre. Ne croyez pas, bon ici, bon, c'est des chassidim, mais allez traîner dans certains milieux. Le type, ils prônent, ils vont faire des colloques et des centres de recherche sur la notion de la perpétuité du libre arbitre dans la judaïcité. Et l'on meurt. Moi, ce que j'appelle en philosophie des péchamos. Des péchamos. Qu'est-ce que ça change un péchamo dans le Sahara? Pas grand-chose. Il a fait de la philo. Ben, c'est pareil. Mais qui te fait un colloque de 8 heures pour expliquer quoi? Pourquoi il n'a pas envie de s'impliquer? C'est-à-dire, dis-moi, écoute, moi ça me prend les nerfs de mettre cette féminine. Moi ça me prend les nerfs de ne pas regarder la voisine. Moi ça me prend les nerfs de ne pas manger cachère. Ça me prend les nerfs de regarder le petit. Alors moi, quand j'ai pas envie, eh ben voilà, eh ben, parle-moi clairement. Dis-moi que tu as envie d'être entre les mains de ton Yetzara au lieu de me faire toute une théorie philosophique sur la notion de la perpétuité du libre arbitre. Mais dis que tu as envie de te conduire comme un chien, hein, et que tu n'as pas envie qu'on te regarde et qu'on dit pourquoi. C'est mieux. Moi je préfère un type clair, un bon goy, qui me dit, écoutez, moi, la judaïté, ça me prend la tête. Ah, ça, ah, ça, tu me plais, toi. Pourquoi? Parce qu'il dit le Chazanis. Les Rechaim, on a une solution pour eux. Ça s'appelle le Géinam. Les Tzadikim, on a une solution pour eux. Ça s'appelle le Gan Eden. Mais les moitiés, il n'y a pas de solution. Est-ce que vous me suivez? Parce qu'au fond de lui, le type, il se sent profondément juif. Moi, monsieur, moi, quand j'entends la petite voix, je me lève. Mais il a quand même posé Christine. C'est-à-dire qu'il est sûr que son fils, il ne se lèvera pas pour la petite voix. Par contre, son petit-fils, il sera peut-être au FN. C'est possible. Pour bien montrer qu'un juif aussi doit être au FN. Oui, monsieur Cohen, oui. Complètement débile. Mais complètement débile. Pourquoi faire tout ça? Pour justifier ce qui se passe dans les deux hémisphères les plus bas du cerveau, ce qu'on appelle les testicules. Rien du tout, n'importe quoi. Moi, j'ai côtoyé. Oh, t'es bon, ça. J'ai été avec eux. J'ai voulu voir. C'est bon, peut-être qu'ils vont m'impressionner, peut-être qu'ils ont raison, pourquoi pas. 17 ans de Talmud, peut-être que je me suis planté, peut-être que je me suis fermé les yeux, peut-être que je vais m'ouvrir, peut-être que je vais écouter. Je vais dire, on va discuter, viens. Vas-y, ça t'a l'air tellement convaincu, tu vas me convaincre. Ah, Rabotai, j'ai compris que j'étais convaincu, mais en deux mots. Donc il pouvait pas être convaincant. C'est pas possible. C'est pas bien. C'est un pasouk dans la Torah, Veshohad Yaver Nechachamim. Un pasouk dans la Torah, ils n'ont pas compris. C'est tout. Comment Aristote, il est mort dans une maison prostituée? Pourquoi? Parce qu'il y a la tête, et il y a la tête. C'est tout. C'est tout. Tant qu'un homme, il n'a pas compris ça, eh ben, il ne comprendra pas. Alors, il te dit, il faut avoir une tête bien faite. Mais pourquoi faire? Pour faire la fête? Ça ne sert aucun intérêt. Sinon, on ne peut pas arriver à comprendre. Comment dire? Essayez la vie. Ça fait. Alors, sinon, vous voyez là, je suis en 48 minutes. Il faut être prévoyant dans la vie. D'accord. Donc que quelqu'un, il n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce qu'on arrive à une telle dérive dans la société. Ici, c'est pareil. Akadosh Baruch Hu, il t'a donné un but. Il t'a donné des moyens, il t'a donné un système. Le libre arbitre, il va être dans ton désir d'existence. Mais dès que tu as existé, regardez bien, la réalisation chimico-bio-nucléaire de ton projet, c'est Dieu qui va le faire. Qu'est-ce qui va t'amener la matière, les circonstances, la banque, le client, le voisin, l'ouverture, le marché, la circonstance, le climat social, pour que ton produit se vende? C'est à Kadosh Baruch Hu, ça. Donc à partir du moment où tu as émis ton projet, Hachem va le réaliser. Mais toi, tu n'as fait que d'émettre, émettre. Et pourquoi c'est Hachem qui doit s'en occuper de ça? Parce que, étant donné que ça implique des milliards et des milliards et des milliards de critères sur des milliards de personnes, donc tu ne sais pas gérer, toi, toute l'interaction qui existe entre tous les niveaux de destinée de chacun. Parce qu'il faut que le Sri Lankais, il ait sa galette de riz. Mais il faut que le transporteur, il ait son million de francs. Et il faut que le boursier, il ait ses 10 milliards. Donc, pour gérer cette interaction de milliards et de milliards de connexions, il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui a le projet global dans la tête qui peut le faire. Au niveau chimique, au niveau finance, au niveau équilibre, au niveau sociologie, au niveau historique, au niveau psychologique, qui sait qui peut tenir tous les éléments? Donc toi simplement, tu es là, tu émets un désir d'existence, là, avec ta bouche. Ensuite, Akadosh Baruch Hu, regardez bien, il va optimiser, réaliser ton désir. Ça c'est un élément. Maintenant, cet élément-là, il est interactif avec d'autres, parce que celui-là aussi, il a son projet, celui-là aussi, il a son projet. D'accord? Celui-là aussi, il a son projet. Ils ont tous des projets. Comment on appelle ça, la part d'un ça? L'organisation mondiale du désir individuel au profit du désir collectif. C'est pas la même définition que tout à l'heure. C'est normal, je ne me rappelle plus. D'accord. Donc, si vous comprenez ça, ouais, donc maintenant, il va falloir faire jouer l'interaction des désirs et des volontés. Mais puisque tout ça, tout le monde physique, ce sont des exercices pour que la personne puisse développer son désir, son existence spirituelle, oui ou non? Alors là, on va introduire le schéma spirituel dans tout ça. Ah, maintenant on va s'intéresser à ça. Ah, maintenant dans le monde, il y a des circonstances, bonnes ou mauvaises, et il y a des circonstances spirituellement bonnes ou spirituellement mauvaises. Ah, maintenant on s'intéresse, c'est marqué Avera Goret Avera. C'est marqué Mitzvah Goret Mitzvah. Une Mitzvah entraîne une Mitzvah, une Avera entraîne une Avera. C'est marqué Mezakin Alé des Zakai. Ouais, on fait du bien par quelqu'un qui est pur. Mechaïvin Alé des Chayav. On fait du mal par quelqu'un qui a fait du mal. Ah, maintenant il y a une autre interaction. On fait Mida Kenegid Mida. Encore une autre règle qui n'est pas en sociologie, qui n'est pas en psychologie, qui n'est pas en physiologie. Comment on va faire coïncider ces lois, qui sont soi-disant les lois de la Torah, et les lois physiques? Oui ou non? Alors, je vous donne un exemple. Imaginez, vous êtes avec Elie à un avis, c'est-à-dire avec un scanner. Il voit, lui, il connaît les causes et les conséquences. Vous êtes assis là. Il dit, tu dis à Eliaou, Eliaou, je comprends rien cette vie. C'est une vie de fou, je comprends rien. Le mal, le bien, le bien pour le mal pour le bien, je comprends rien. Assieds-toi, je vais t'expliquer. Vous êtes assis tous les deux comme ça, et il y a deux rues qui descendent. Vous savez, une rue italienne, vous la voyez avec des pavés comme ça, en pente, en haut il y a le soleil, il y a un bâtiment qui fait comme ça, qui est collé, et il y a deux rues de chaque côté. Il y a une rue de chaque côté. Il y a deux types qui descendent la rue. Un à côté. Maintenant, Eliaou, il dit, viens, je t'explique. Il dit, tu vois le mec, là, celui qui descend, là, à gauche, le grand baraqué, 118 kilos, 14 dames de taekwondo, d'accord? Oui? 29 combats, 37 morts. Il a tué l'arbitre, des fois. Ouais?
un monstre.
Ouais.
Un tambouge.
Ah, il arrive, il a les nerfs. Il a les nerfs. Parce que sa femme, elle vient de l'insulter au téléphone. Et sa femme, Dénara, c'est la maman, d'accord. Il a envie de tuer quelqu'un, parce qu'il ne frappe pas les femmes. Donc il faut qu'il se défoule sur quelqu'un d'autre. Donc il cherche une tête à claque. Et il fait sa petite prière. Cachem m'envoie une tête à claque. Cachem. Il a les nerfs, il a le poing en feu. D'accord. 248 kg de pression, 4 fois qu'elle s'est d'accord. Il a envie d'éclater une tronche, il attend. Il descend la rue, voilà, avec les nerfs. Les nerfs. Donc lui, il a Yetzirara de faire du mal. La Torah l'a dit, il ne faut pas frapper. Et lui, il a Yetzirara. Il a libre arbitre, ou il va faire du mal, ou il ne va pas faire du mal. Ça. De l'autre côté de la rue, il y a Wartetaklat. Un petit qui descend. Ce qu'on appelle une espèce de conglomérat de pourriture. Un conglomérat de pourriture. Un type qui s'est mis avec un copain à lui, qui avait fondé une boîte pendant 20 ans, que lui est rentré pendant 6 mois, avec un calcul bien fort dans la tête, de le planter au bout de 6 mois, le cassant de morale, et de lui récupérer la boîte pour 18 francs symboliques. Et il a réussi, tout son montage financier, il a étranglé l'autre, il a monté le personnel contre lui, il lui a mis 10 ans au plus d'homme, et maintenant il sait que pour les 18 francs, il va récupérer la boîte parce qu'il est en accord avec le syndic. Ce qu'on appelle un conglomérat de pourriture. Une vraie pourriture. Il y a cette pourriture qui descend. Celle-là, elle mérite la tréha. Elle mérite de prendre dans la tête une plaque de folie. D'accord. Donc, un, il descend par là, un, il descend par là. Donc, il y a où t'as expliqué. Il dit, écoute, ma gueule. Il y a deux solutions. Enfin, il y en a quatre. Celui-là, où il va frapper, où il va frapper. Mais lui, il va frapper. Maintenant, lui, où il va prendre la tréha, ou il va pas la prendre. Tu dis, mais j'espère bien qu'il va la prendre. Ah non, parce qu'avec la technologie d'aujourd'hui, il a un téléphone portable. Il peut faire teshuva. Ouais. Il peut appeler la banque, appeler le syndic, et en 5 minutes, régler le problème avec son copain sans que personne ne sache rien. Il peut le faire. Donc lui, il a libre arbitre. Ou il va à la finalité de sa pourriture, ou il remet en cause sa pourriture. Les deux, ils descendent. Et nous, on attend. On a dit, alors, allez, qu'est-ce qui va se passer? Je te dis rien. On verra. Est-ce que ce monsieur, il va rendre heureux un dentiste? Plus un chirurgien esthétique? Est-ce que l'autre, il va aller en prison pour meurtre par le fait qu'il a caressé le visage de quelqu'un d'autre? Parce qu'à son niveau, ça s'appelle une caresse. On ne sait pas. Alors, tous les systèmes, ils existent, ils sont positifs. Regardez. Si ce monsieur-là, qui a trop les nerfs, alors on va commencer par celui-là. Si celui-là, il fait pas tes chouva, il dit, ah ben, je l'ai planté grave. Oh ben, vivement que j'attaque le deuxième, d'accord. Et il descend tout heureux comme ça d'avoir fait sa pourriture. Il arrive, lui mérite la tréha. Il la mérite. Maintenant, il y a l'autre qui arrive. Un autre. Il a envie de mettre une tête à claque. Ou il va la mettre, ou il va pas la mettre. Alors, regardez bien. Ils arrivent au coin de la rue. L'autre, il a le poing brûlant. Il voit le mec, il dit, ah, c'est pas assez, m'a entendu ma prière. Une tête à claque, mais une tête de veau mâchée, ou une joue comme ça, mais un appel au secours. Ouais. Un appel d'offre en basse. Mais non. Première possibilité. Il lui attrape le cou comme ça, et il lui met un coup de poing. Il y a un poster de plus sur le mur. Donc, lui, il a fait une avéra, il a frappé. À tour de frapper. D'accord. Mais non. Lui, il a fait l'avéra, mais l'autre, il a pris ce qu'il méritait. Ça rapporte toi. Deuxième possibilité, l'autre, il méritait, parce qu'il n'a pas fait teshuva, de prendre la teleha. Cette teleha, attention, c'est pas une teleha pour une teleha, c'est une teleha parce que la seule manière de réveiller un mec qui dort, c'est de le réveiller en fonction de la profondeur de son sommeil. Donc lui, puisqu'il est profondément ensommeillé dans sa pourriture, donc il lui faut un marteau piqueur pour casser la croûte. Donc on a trouvé un bon marteau piqueur. Donc maintenant. Ou alors, ce monsieur-là, au moment où il allait mettre la teleha, il regarde, il dit, bah, c'est un juif et tout, le pauvre, il ne pas le frapper. Il se remet en cause. Ah, et l'autre, qu'est-ce qu'il va faire? Il mérite la tréha? Pas de problème. Il y a justement un chauffeur-livreur qui avait une blonde super bien faite, qui traverse de l'autre côté, il ne s'est pas fait gaffe, il est monté sur le trottoir. Les deux jambes. 19 mois d'hôpital, 14 mois de rééducation, deux béquilles pour toute la vie. D'accord? Donc ça va. La pourriture a reçu sa pourriture. Ça veut dire quoi? À Kadosh Baruch Hu, il a créé le scénario, c'est vrai. Mais il a pas créé les acteurs. Il a pas choisi les acteurs. Alors il me dit, voilà, dans mon scénario, il me faut un rachat. Hop, un mec, il lève la main. Bechavod. Il dit une fois un tzadik, hop, il lève la main. Bechavod. Chacun va faire son rôle. Ah, mais non. À partir du moment où chacun s'implique dans l'histoire, il y en a un qui va produire du bien, qui va amener du bien. Et qui va produire du mal, il va amener du mal. Deuxième partie du scénario, le type, il prend son téléphone. Avant d'arriver en bas de la rue, il prend le téléphone, il dit, je suis fou de faire ça. Oh, mais qu'est-ce que je vais prendre dans la tête? Il dit, existe, le monde n'est pas gratuit. On s'amuse pas comme on veut. Allez hop, il prend le téléphone, il appelle la banque, hop, il annule. C'est tu vois. Ah, il regrette, il est chef, t'en prie, hop. Il arrive en bas de la rue, quand il arrive, il est pour le suivant. Il n'avait plus la télécha. Qu'est-ce qu'il va faire? Alors Hachem fait sortir 10 mètres avant le coin de la rue, et une deuxième tête à claque, mais waouh, pas besoin de folie. En fleurs. Il attend que ça. Une dentition comme ça. Qui ne demande qu'à être éparpillé. Et il se prend là. Et lui, il mérite pour autre chose. Et il prend. Vous voyez cette organisation. Que Akadosh Baruch Hu, il met ensemble les gens qui ont besoin d'être ensemble. Toi, t'as planté ton copain de 1000 francs, tu perds ton portefeuille 1000 francs. L'autre, il a fait une mise à 1000 francs. On lui a promis qu'il retrouverait 1000 francs. Il a trouvé le portefeuille à 1000 francs. Akadosh Baruch Hu, il sait très bien ce qu'il fait. Il sait très bien ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il fait? Il met en relation les gens. Alors toi, regardez bien, toi on a dit, tu existes. Quand tu as existé, implication. Quand tu as impliqué, tu as créé quelque chose. Quand tu as créé quelque chose, enfin, tu n'as même pas créé. Toi, tu as développé l'idée, la volonté. Maintenant, Hachem, il réalise ça. Maintenant, le fait qu'il ait réalisé, ça va profiter à qui? À toi? À quelqu'un d'autre? Ça dépend. Si tu es dans une démarche de bien, ça produit le bien. Ça va profiter à quelqu'un d'autre pour le bien. Si c'est une démarche de mal, ça va profiter pour le mal pour quelqu'un d'autre. Par exemple, il est tordu le mec. Il cherche des affaires tordues. On lui amène des clients tordus. Qui lui amène de l'argent tordu. L'argent tordu ne peut pas l'impliquer dans le bien. Il est obligé de le remettre dans des affaires tordues. Qui l'amène dans des problèmes tordus, avec des gens tordus, dans des prisons pour tordus. Comment ça s'appelle ça? Libre arbitre. L'autre, il est honnête. Tous les jours, on vient lui proposer des magouilles. Il dit, je veux pas de magouilles. Votre argent pourri, j'en veux pas. Mais je fais 5 minutes. Tu prends la valise à Gare Saint-Lazare, tu la déposes. À la Gare du Nord, 10 000 francs. Qu'est-ce qu'il y a dedans du sucre en poudre? En poudre. Ah bon, Béguin et C, ils font du transport par valise. Hein? 60 kilos de bouille. Des billets de 100 francs à 50 francs. Tu veux pas, non? Vite fait, là. Dans les 2000. Des billets de 100 francs à 50 francs. On n'a jamais vu une plus-value aussi forte. Aussi rapide. Mais il faut pas le retourner, c'est un prospectus de BHV. D'accord? Tu veux pas, non? Okay, non? Excusez-moi, je rentre pas dans ces trucs-là. J'y vais l'honnête. Mais tout le monde est dans la magouille, t'as pas compris encore? Comment tu crois que tu l'as compris? Excusez-moi, ça m'intéresse pas. Donc lui, il veut pas d'être à l'ouen. Donc on lui envoie, il est droit. Il cherche des gens droits. On lui fait des affaires droites. On lui donne de l'argent droit. Il implique dans des choses droites. Ça amène du droit. À l'ouen. Si vous allez me dire, l'argent n'a pas d'odeur, tout argent est bon à prendre, si on me l'a envoyé, c'est Mina Shamaim et tout. En Bretagne, on peut avoir le loyer gratuit pendant 30 ans à Fresnes et c'est Mina Shamaim. Gratuit. Ça ne veut rien dire, faut pas être bête. D'accord? On va parler du mazal. Chacha, je m'excuse, j'ai pas la feuille. Je vais tout aborder si je veux. Mais comme j'ai pas la feuille, je peux pas trop rentrer dans les. Sinon vous allez me casser le plan. Déjà j'en ai pas alors. Non, pourquoi? Parce qu'après le mazal, c'est on est dans la vision globale. Maintenant, je suis obligé, j'ai fait la personne, maintenant je fais l'interaction avec la deuxième personne, après on va regarder encore plus global, et après on va regarder l'histoire du peuple juif. Mais laissez-moi faire ça. J'ai oublié de prévenir au début que c'est pas bien les interventions, parce que je fonctionne comme un tagine. Si vous mangez du feu, c'est aussi le tagine. Vous voyez le tagine? Mais non, mais c'est deux étapes après. Je n'y arrive pas, si je m'énerve. C'est vous qui m'avez coupé la porte, vraiment. Alors, non, je rigole, je peux être beaucoup plus méchant. Alors, si c'est comme ça. Oui, je suis. Où on était. C'est pas le mazal, arrêtez. Ouais. Mais ça y est, ça. Quand on est. Ça. Deux points. Regardez, si on comprend ça maintenant, alors maintenant, qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a fait se rencontrer des gens qui ont besoin de se rencontrer. C'est pareil dans les mitzvot, c'est pareil dans la vérité. Par exemple, une fois, Une fois, quand ils ont voulu construire la yeshiva de Volozhin, c'est la première grande yeshiva qu'ils ont construite en Europe de l'Est. C'est une yeshiva énorme. Et ils n'avaient pas d'argent. Comme d'habitude, Baruch HaShem, les bonnes yeshivas, il n'y a pas d'argent. Les mauvaises yeshivas, on appelle ça les universités, il y a de l'argent. D'accord ? Mais les bonnes yeshivas, il n'y a pas d'argent. Ils ont cherché. Et il y a un monsieur qui s'est proposé de payer le terrain pour faire. Il a donné l'argent pour le terrain. Alors, bien sûr, ils ont fait une inauguration pour la première pierre, et tous les rabbins, et là, là, et quel mérite il a, ce monsieur, vous connaissez les discours de rabbins, d'accord. Et un rabbin, il est monté, il a dit, moi, je suis jaloux. Il dit, pourquoi? Il a dit, je suis pas jaloux de la mitzvah qu'il a fait. Parce qu'il a fait une mitzvah, monsieur, il a fait une mitzvah, il a mis 1 million, 2 millions, 3 millions de francs, ou de je sais pas ce qu'il avait comme monnaie là-bas, pour acheter ce terrain, mais, il dit, moi, je suis pas jaloux de ça. Moi, je suis jaloux, parce que cette mitzvah-là, c'est une mitzvah qui est facile parce que c'est une mitzvah avec du kavod, tout le monde lui dit monsieur, monsieur, même les rabbinim ils viennent lui embrasser les pieds, un mec qui fait pas shabbat rien, il lui dit ah oh, monsieur, là là. C'est qu'il aurait même pas dit bonjour dans la rue. D'accord? Donc cette mitzvah là, avec beaucoup de kavod et beaucoup de chaloy, on sait pas ce qu'elle vaut. Il a dit, mais pour avoir droit à cette mitzvah là, puisqu'il y a une mécanique de mitzvah entre une mitzvah, il a fait une mitzvah qui est beaucoup plus grande que ça, que personne n'est au courant, sinon on le saurait. Sans inauguration, sans kavod, sans rien. Que par ce mérite-là, on lui a donné le mérite de faire cette mitzvah-là, de faire la plus grande yeshiva dont tous les rabbinim de toute l'Europe avant-guerre, ils sont sortis de là-bas. Alors là, il se dit, je voudrais bien la connaître cette mitzvah-là, celle d'avant. Yafum. Ça, c'est un enseignement qui a été donné par le Rav du Titanic. Il faut toujours se méfier de ce qu'on voit pas. Il a compris. Hein. Il paraît que ça l'a refroidi d'un seul coup. Il faut se méfier de ce qu'on voit pas, la partie cachée de l'iceberg. Moi, j'ai pas vu le film, mais je me doute qu'il a coulé le bateau. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une chose extraordinaire. Ça veut dire qu'à partir du moment où nous comprenons qu'il y a une logique mécanique dans le bien, comme il y a une logique mécanique dans le mal, la seule différence, c'est est-ce qu'on a toute la vision ou on n'a pas la vision. Maintenant, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Pour l'instant, j'ai regardé avec vous la vie par un trou de serrure. C'est quoi? J'ai vu cette personne-là implique cette personne-là. Alors, le bien, le mal, d'accord. Le bien pour le mal pour le mal, d'accord. Ah, tu me dis, oui, mais des fois, il y a le bien pour le mal. Tzadik, verra l'eau, racha vetomlo. Tu vois un tzadik qui souffre, et tu vois un racha, il s'active grave. 2 piscines, 4 voitures, 5 maîtresses, faha pour lui. Et Tefilin, il sait même pas ce que c'est. Il se rappelle même plus, Tefilin, c'est une marque de quoi, ça, de chaussures? Non. Alors, ah, où sont les récompenses, sont les mitzvot, où sont tout ça? Très bien. Alors, pour ceux qui regardent la Gemara dans Brachot, là-bas où la Gemara pose la question, donc, sera, mais nous, là-bas elle répond, Tzadik ben Racha, Racha ben Tzadik. Un Tzadik fils d'un Racha, ou un Racha fils d'un Tzadik. Alors j'avais entendu une fois un Pshat là-bas, d'un Rav Rosenberg, il s'appelle, il est à Paris, d'ailleurs si vous avez l'occasion, si vous voulez voir un vrai Tamit Racham, ouais, vous allez le voir. Il a dit un Pshat là-bas extraordinaire. Je ne sais pas si c'est de lui, mais en tout cas il l'a dit. Mais ici, quoi Tzadik ben Racha? Ici, la Gemara, elle parle pas d'un Tzadik qui est fils d'un Racha ou un Racha qui est fils d'un Tzadik. Pourquoi? Parce que moi, j'ai rien à voir avec mes parents avec moi. Moi, j'ai ma vie de l'autre côté. Tzadik ben Racha, c'est quoi? On regarde au niveau d'un Neshama. Si une personne était Tzadik dans le Gilgul d'avant, on l'a renvoyé, ouais, dans une autre vie pour faire un tikkun de ce qu'il n'a pas réparé dans le monde d'avant, et il était Racha dans cette vie-là. En plus qu'il était Tzadik dans le monde d'avant, donc il a un crédit de folie, qu'il n'a pas utilisé dans ce monde-ci, puisqu'il était rachat. Donc, on va lui donner le bien qu'il a cumulé dans la vie d'avant, on lui donne dans cette vie-là. Donc, ça s'appelle rachat des tableaux. Rachat, et c'est bien pour lui. C'est-à-dire que les gens, ils voient quelqu'un, ils disent, ah, c'est une maison de folie, 400 mètres carrés, avenue des Termes. Ouais, et c'est juste pour mettre les clés de toute la rue qu'il a avenue Montaigne. Je te rends compte, c'est chira. Il y a une bagnole. Il faut une mobilette pour aller du siège arrière au chauffeur. Ça. Tu fouilles. Il n'y a rien. Rien. Le bonheur, il n'y a pas. L'équilibre, il n'y a pas. La connaissance de soi, il n'y a pas. La maîtrise de soi, il n'y a pas. Les vrais amis, il n'y a pas. Le vrai couple, il n'y a pas. Réah. Il a juste de quoi payer les rentes pour toutes les femmes qu'il a divorcées, la drogue pour son fils qui va mourir bientôt d'overdose, et les amants de sa maîtresse de fille qui fait toute la bêtise de toutes les chérois dans toutes les boîtes pourries de la terre.
Mais pas au Hachem, il a de quoi. Ça va pour lui.
L'autre dit, moi j'ai pas. Moi j'ai pas. Ouais. Mais mes enfants ils sont équilibrés. J'ai marié le dernier cette année. Avec ma femme, au Hachem, on vit le plein amour en plein épanouissement depuis 30 ans. Ouais. Ça part à ça, Hachem il a donné tout ce qu'on avait besoin. Et voilà, je viens de payer le pavillon de mon quatrième fils. Ça marche. La bracha, ça marche. La clala, ça marche pas. C'est quoi la bracha et la clala? C'est quand il y a un accord entre le monde intérieur et le monde extérieur. On te donne les moyens d'épanouir à l'intérieur. Mais si tu vois que tu es à l'extérieur et que tu vas pas à l'intérieur, ça veut dire que ça devient la clala. La clala. Alors comment ça s'appelle ça dans la Torah? Dans la Torah, ça s'appelle Meshalmim al-Panav le-Avido. On lui paye sur sa face pour le perdre. Pour l'empêcher de se réaliser, pour l'empêcher de grandir. Pourquoi? Parce qu'on t'a donné beaucoup de moyens. Si t'as pas compris, c'est pour redistribuer. Ça veut dire que t'as mangé, t'as bouffé, t'as payé ta maison, t'as payé ta voiture, t'as payé ta résidence, t'as payé ton avion personnel, il te reste encore 10 milliards. Tu sens pas que c'est pour autre chose? Non. C'est pour trésoriser. Alors tu vas te faire terroriser. Tu vas vivre tout seul, tu auras 14 gardes du corps, et tu vas être terrorisé parce que t'as voulu trésoriser. C'est rien que le R qui se déplace. Pourquoi? Il n'y a pas de monde intérieur. Il n'y a pas de réalisation. Donc les moyens, au lieu de devenir des moyens pour atteindre un but, ils sont des moyens pour atteindre des moyens. Donc ils sont but pour but. But pour but, mazal zéro, haïm zéro. But, moyen. Si les moyens restent des moyens et qu'ils te permettent d'atteindre le but, ils deviennent générateurs de but. Générateur de but égale bonheur. Bonheur, réalisation. Réalisation, tzadik. Vivant. Racha. Donc la face externe des choses, ça ne veut rien dire. Moi j'en ai eu des gens comme ça, des grands blindés, des 50 millions de dollars, des 40 millions de dollars, je vous le dis clairement. Pas de couple, pas d'amitié, pas d'équilibre. Pas d'amitié, il y a que des grappeurs autour. Pas de couple, machine à sous. Pas d'enfant, papa, comment tu me donnes? Pas d'équilibre personnel, 2 heures par jour, le divan, il vide la tête, c'est le seul kiff qu'il y a. Tu mets pas besoin de 100 millions. Comme ça. Comme ça, en fait, c'est comme ça. Comme ça. Moi, je l'attends, moi, le voir le milliardaire, équilibré bien dans sa peau, qui n'est pas bouffé par son fric. Je l'attends. Je l'attends. Pourtant, j'ai l'expérience, j'en connais, hein. Partout, hein. Henri Martin, Louis Prony, tous, je les connais tous. Comment ça se fait? Pourquoi il n'y a pas d'exception? Et pourtant, les mecs qui sont au SMIC, ils disent, ben moi, si j'avais de l'argent, ben moi, je ne serais pas comme eux. C'est énorme, mon frère, t'as pas compris. C'est une catapulte. C'est une catapulte. Regarde. Argent, moyen, standing, milieu, skill, original, vice, débauche, pourriture. Impossible. Impossible, il n'y a pas de possibilité. Est-ce que vous comprenez ça? Des gens équilibrés avec l'argent, amenez-le moi. On y va, venez, on va le voir tout de suite. On y va. D'accord, alors c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire, on va pas se bloquer. Dites-moi une proportionnelle. Donnez-moi une proportionnelle, allez-y. 10%? 5%? Dites-moi, franchement, par image, gala, ici Paris, c'est ça avec les 10% ou avec les 80%? Je vous pose la question à vous. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de la réalité. C'est comme si quelqu'un va me dire, ma fille elle est à la fac et elle va sortir une hassida. Excuse. Il y a des exceptions. C'est vrai. C'est pour ça. Oui, Hassan. C'est pour ça qu'il y a des distributeurs de préservatifs dans les lycées, aux toilettes. C'est pour ça. Parce qu'il y a des exceptions. T'as compris maintenant? Voilà. Non, il faut être réaliste maintenant, c'est fini tout ça. Faut arrêter de rêver. Moi, ils me téléphonent parce qu'ils ont 14 ans pour que j'annonce à leur père qu'elles sont enceintes. Alors, je dis quoi, moi? Si vous êtes né où, madame? Rue Saint-Denis? Non. Et tu me dis, je suis en, voilà. Il me téléphone, hein, un élève à moi. Hein. Je t'appelle Israël, qu'est-ce qui se passe? Il dit, voilà, je suis venu en vacances avec le CCDL. Je dis, oui, alors, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ben, ils ont emmené à Eilat. Oui, où ça? Ben, dans une boîte gay. Et qu'est-ce qu'on fait là-bas? Je sais pas. On est dans une boîte gay, là, qui, ils sont tous en cuir et tout. Je t'appelle parce que qu'est-ce que je dois faire? Moi, j'exagère, moi. Moi, je suis une vision de... Pire! La fille a un téléphone à 13 ans. Elle me dit, le chauffeur, il a 45 ans, il s'est déjà tapé deux filles dans le car. En Israël, voyage organisé. Je ne dis pas le groupe, parce que tu vas croire que j'exagère. Moi, j'exagère, va de vivre. Là, sur les palmes, ce qui se passe. Moi, j'exagère. Pourquoi moi, ils m'emmènent dans les écoles juives pour me dire parler de la sexualité? Dans les écoles juives, c'est pas l'école d'œil. L'école juive. Tu veux le taux d'avortement des filles de 14 ans? Tu veux qu'on appelle l'hôpital? Faut arrêter de rêver, c'est fini là. Faut savoir une chose. Aujourd'hui, celui qui n'a pas ou la morale ou la Torah, il est mort. C'est terminé. C'est ce qu'ils disent les Américains maintenant, statistiquement. Combien il y a de gens qui s'engagent à ne pas divorcer dans les 18 mois? Combien il y a de personnes qui s'engagent à ne pas avoir plus de 4 amants dans leur vie de mariage? Voilà où en sont les gens. Qu'est-ce que tu veux? Et le Pax, tu crois que c'est quoi le Pax? C'est quoi? C'est une preuve de moralité, ça? Allez. Rabotaille, les plus optimistes, ils disent qu'on est dans un monde de pourriture. Les moins optimistes, ils disent qu'on ne pourra pas s'en sortir. Allez, venez, on va travailler. Si on est là, si on a déjà compris ça, alors, on a dit, il y a la personne, droit d'existence, interaction avec le principe de chacun. Maintenant, rachat ou tzadik, c'est-à-dire où il va se donner les moyens de pouvoir optimiser les situations qu'on lui donne avec les outils qu'on lui a donnés parmi eux les mitzvot, ou il ne va pas se donner les moyens. Quand il se donne les moyens, il s'implique dans une démarche qui l'amène vers le bien. Quand il ne se donne pas les moyens, il s'implique dans le mal, dans une démarche qui l'amène vers le mal. Maintenant, s'il est bien et qu'il lui arrive du mal, ou s'il est mal et qu'il arrive du bien, on a expliqué s'il est mal et qu'il lui arrive du bien, on a expliqué. Maintenant, s'il est bien et qu'il lui arrive du mal, c'est l'effet inverse. C'est quoi? C'est quelqu'un qui avait un gilgoul de... C'est-à-dire, le gilgoul d'avant, il était rachat. Et maintenant, il est tzadik. Et par rapport au mal qu'il a fait dans le gilgoul d'avant, on lui envoie des difficultés dans ce monde-ci pour qu'il puisse réparer le mal qu'il a fait avant. D'accord? Maintenant, pourquoi on est obligé de regarder au niveau global et toutes les dimensions en même temps? Pourquoi? C'est très simple. Parce que Akadosh Baruch Hu, il a divisé le monde en deux. Non, on a sauté une étape. Ça s'est marqué à Nikel Shakai. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Abraham Avinu, je suis l'éternel Shakai. C'est quoi Shakai? Shakai, c'est Shin Dalet Yud, c'est le nom qu'on met sur les Mezuzot. Alors il dit le Ramban que ce nom-là, c'est le nom qui est solet sur les Mazalot, c'est le nom qui maîtrise le Mazal. Alors, qu'est-ce que c'est le Mazal? Regardez. Ça, c'est le monde physique. D'accord? Au-dessus du monde physique, il y a le monde du Mazal. C'est quoi le monde Mazal? On va dire c'est le logiciel de gestion du monde physique. Imaginez un appareil. Un objet, par exemple. Ouais? Un robot qui marche grâce à un ordinateur. Non. L'objet, il est bête. Il exécute des actes. Mais l'ordinateur, il contient un logiciel, et quand tu programmes le logiciel, tu programmes le robot qui fonctionne sans fil et qui bouge en fonction du logiciel. Alors, le logiciel de la matière, c'est le Mazal. Quand Akadosh Baruch Hu a créé la matière, il était obligé de créer le logiciel de la matière, qui s'appelle le Mazal, pour être gestionnaire dans la matière. Alors, comment on appelle ça? On appelle qu'il y a des centaines d'anges qui contrôlent chaque élément de la matière pour que la matière puisse trouver sa place à chaque fois. Organisation mondiale de la matière. D'accord? Maintenant, si on a dit que le monde il a existé et qu'il existe, donc il existera, donc il y avait une préprogrammation au niveau physique, au passé, au présent et au futur. Maintenant, si quelqu'un, regardez bien, il connaît le Mazal, il connaît le futur. Mais il connaît le futur de quoi? Il connaît le futur de l'événement, il connaît le futur de la matière. En plus que l'événement c'est l'organisation de la matière, donc il sait que par exemple dans 10 jours il va arriver un accident. Cet accident il est préprogrammé parce qu'il faut que cette tôle, elle aille à la casse pour être récupérée ensuite par un bateau qui ira couler en Afrique. Donc il y en a préprogrammé l'accident. Maintenant, la préprogrammation de l'accident, elle est positive ou elle est négative? Ça dépend comment tu vas le vivre. Ça dépend comment tu vas l'atteindre. D'accord? L'autre, il a eu un accident. Il s'en est sorti. Il a été repris par une jeune fille qui l'a accompagné jusqu'à la station d'essence. Cette jeune fille, il a gardé son numéro. Il l'a épousé. Ils ont 4 enfants. Bon, au crachet, il a eu un accident. D'accord? L'autre, il a eu un accident. Eh ben, il a perdu la vie, ou il a perdu du temps, ou il a perdu une affaire. Alors, l'accident, il est positif ou il est négatif? Ça dépend d'où tu viens. Et qu'est-ce que tu vas faire avec? Si tu le prends bien, si tu le prends mal, c'est comme les expériences. Quelqu'un qui profite bien d'une mauvaise expérience, il évolue. Quelqu'un qui profite mal d'une bonne expérience, il s'enfonce. Donc c'est jamais l'expérience qui compte ou la matière qui compte, c'est le relationnel que tu entretiens avec. Alors ça s'appelle comment? Le relationnel que tu as avec le Mazal. Maintenant, la question, c'est si le Mazal il est préprogrammé, alors où est-ce que c'est la liberté? Ah là, il a dit à Kadosh Baruch Hu, à Nikel Shakai, je suis l'éternel Shakai, je maîtrise le Mazal, et je mettrai mon alliance entre toi et moi. Qu'est-ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu, à Abraham Avinu? Il a dit, voilà, si tu m'en fais une alliance. Alliance avec qui? Entre Abraham et Hachem. Quel Hachem? Yud Kevavke. Yud Kevavke, il maîtrise le Mazal, parce qu'il maîtrise Shakai, qui maîtrise la matière. Maintenant, si un homme, il a une relation privilégiée avec Yud Kevavke, Hachem, automatiquement, il n'est pas soumis au Mazal. Comment on appelle le lien privilégié qu'on peut entretenir avec Yud Kevav Keh, la Torah. La Torah. La Torah, c'est la volonté d'Hachem. Si un homme il fait la volonté d'Hachem, Hachem il fait sa volonté. Comment on appelle ça? La liberté maximum. C'est quoi la liberté maximum? Sadi Gozer, Akadosh Baruch Hu Mekayem. Si tu annules ta volonté devant la mienne, j'annule la mienne devant la tienne. C'est un père qui a vote, peut le lire en français, c'est incroyable. Comment c'est possible? Le niveau de liberté maximum, c'est quand tu n'es pas soumis au Mazal. La Gemara a dit, El Mazal Israël! Ah, c'est bon, je suis juif! Pas de Mazal! C'est bon, j'ai pas de Mazal! Donc j'ai pas de prédestination! Ah, ça dépend, mon frère! Parce que la Gemara a dit, ça veut dire quoi, il n'y a pas de Mazal? Il n'y a pas de Mazal, ça veut dire que grâce à la prière, à la Tefila, et grâce à la Teshuvah, un homme, il peut échapper à son Mazal. Rabotai, on est tous très programmés au niveau physique. Maintenant, cet événement physique, ce corps physique, on va le subir, on va l'utiliser. Maintenant, il y a deux manières de sortir du mazal. Ou la teshuvah, ou la tefila. Regardez, l'homme il est, là c'est le physique, d'accord, le monde physique. L'homme il est là. Là il y a le mazal, là il y a Hachem. Il y a deux manières de sortir de la matière. Parce que la matière, et le mazal c'est la même chose, parce que ça c'est le gestionnaire de la matière. Il y a deux manières d'échapper à la matière. Soit la teshuvah, c'est-à-dire tu vas chercher Dieu en toi. Soit la tefila, tu vas chercher Dieu dehors. Soit tu fais un avec Hachem, par là. Soit tu fais un avec Hachem de l'intérieur. La Gemara a dit, un homme, il peut échapper à son mazal, parce que, par la prière ou par la teshuvah. Si tu fais un avec Hachem, tu ne subis pas le mazal. Ça s'appelle Tamim Tiye Imachem Elokecha. Sois entier avec l'éternel ton Dieu. Mais si tu n'es pas avec Hachem, tu es avec la matière. Parce que ou matière ou anti-matière. Alors la Gemara a dit, il ne faut pas les voir des voyants. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est marqué Tamim qui est Imachem Elokecha. Il faut être entier avec Akadosh Baruch Hu. Il dit le Maharal de Prague, c'est-à-dire qu'il ne faut pas aller voir des voyants. Pourquoi il ne faut pas aller voir des voyants? Il dit c'est très simple. Il dit parce que si un homme, regardez bien, il va voir le voyant, ça veut dire qu'il considère qu'il est soumis au voyant. Or qu'est-ce que le voyant il voit? Le Mazal. D'accord? Or s'il est avec le Mazal, il est avec la matière. S'il est avec la matière, il n'est pas avec l'antimatière. C'est marqué Tamim qui est Imachem Elokecha. Ouais, il dit le Maharal, il m'a ta tam à ta imachem. Si tu es tam, si tu es entier, tu es avec Hachem. Si tu n'es pas entier, tu n'es pas avec Hachem. Ah, tu vas me dire, mais le voyant m'a dit des choses. Ça s'est passé, comme ça s'est passé comme il m'a dit. C'est normal, regardez bien. Moi, j'ai dit, moi je suis là. J'ai une épreuve qui arrive là. Mais non, cette épreuve-là, elle va me faire grandir ou va me faire rapetissir? Elle va me casser ou va me faire évoluer? C'est pareil, regardez, moi je suis un élève. Maintenant, moi je suis un élève qui a des complexes. Parce que j'ai un problème, j'ai des complexes. J'ai un professeur qui est dur avec moi. Regardez bien. Si je le prends bien, hop, je grandis. Si je le prends mal, parce qu'il est dur, je m'angoisse. Alors, tout dépend comment j'aborde la vie. Si j'aborde la vie avec un fond de culpabilité, parce que je me dis, ouais, je suis un incapable, j'ai fait beaucoup d'avérotes et tout ça. Ce fond de culpabilité qui est cultivé par mon Yetzara. Parce que la plus grande force du Yetzara, c'est la tristesse. Donc lui, il me fracasse. Hop, quand elle arrive l'épreuve. Si je suis un fond de culpabilité, comme j'ai un fond de culpabilité, donc l'épreuve, je la regarde négatif, je la vois noire. Comme j'ai un bras noir, elle est noire. Donc je prends la pléra. Si je ne suis pas sur un fond de culpabilité, parce que j'ai dit, mais la tchouva, ça existe, Hachem, il m'aime. Mes parents, ils m'ont aidé. Tu vois pourquoi Hachem, il ne m'aiderait pas. Et je me remets en cause. Et j'accepte les bêtises que j'ai faites. Je vais tirer les leçons. Je vais prendre une pléra et je vais grandir. Comment ça s'appelle les leçons de la vie? Par exemple, quelqu'un, il se plante une première fois. Il ne se prendra pas une deuxième fois. Après, il s'est planté une première fois. C'est le prix des études. Ton premier dépôt de bilan, c'est le prix des études. T'étais inconscient, t'as pas réfléchi, t'étais pas formé, t'as vu que t'as voulu sortir vite de l'école. Ah, t'es vite sorti de l'école. Donc t'as pas fait de gestion. Comme t'as pas fait de gestion, t'as fait de la vente, comme t'as fait de la vente. T'as cru que tu pouvais créer ta boîte, t'as créé ta boîte, tu t'es planté en gestion, t'as planté ta boîte. Qu'est-ce que t'as planté en vérité? T'as planté ta seconde. Parce que t'as fait ces secondes premières terminales dans un bac de gestion, t'aurais eu les éléments de gestion qui étaient nécessaires pour pas planter ta boîte maintenant. Comme t'as voulu du fric tout de suite, t'es devenu vendeur, il te manquait les éléments de gestion, t'as planté ta boîte. Donc en seconde, t'as planté ta boîte. Ça s'appelle la projection. De la même manière au physique, au spirituel, pareil. Hachem te dit, apprends la Torah. Entre 13 et 20 ans, tu es obligé de faire une mitzvot, mais on ne te punit pas pour les averot. Pourquoi? Parce que avant ça, facultatif. Après ça, obligatoire. Obligatoire, mais tu n'as pas la maturité. Donc Hachem te dit, écoute, je te laisse t'entraîner. Donc je ne te mets pas la telha. Mais à partir de 20 ans, tu subis les conséquences pour le bêtise que tu as fait après 20 ans. T'es prêt ou non? C'est exactement pareil. Dans la vie, il y a l'école. Après l'école, il y a la prépa. Dans la prépa, c'est la théorie. Tu t'es planté au BTS. Bon, ben tu t'es planté au BTS. Mais si le BTS, qui est quoi le BTS? Ça fait un BTS, par exemple, de compta. Donc on t'a présenté un plan compta, et tu t'es planté. Maintenant, quand tu t'es planté, Si t'es planté, bon, t'as zéro, t'as un TBTS. Mais si ce plan compta, au lieu d'être virtuel, il était réel, tu serais planté comment? 20 millions de francs. Ou tu serais en prison. Donc là, il y a la théorie et la pratique. La théorie de la Torah, entre 13 et 20 ans. La pratique, entre 20 et après. Donc t'as le temps de rentrer. Si quelqu'un dit, moi, pas de plan. Pas d'études, pas de cours, pas de formation, pas de connaissances. Comment on dit en anglais? Larva. L'arma totale. Comment il va faire celui-là? Il sort dans la vie. Là. Une tréha devant, une tréha derrière. C'est arrivé. Et après, c'est les conséquences. Premier dépôt de bilan, bagouille. Deuxième dépôt de bilan pour payer le premier. Troisième pour payer le deuxième. Quatrième pour payer le cinquième. Il a 80 ans. Et qui dit j'en peux plus, j'ai raté ma vie. Quand est-ce qu'il va prendre des leçons? Quand est-ce qu'il va devenir l'homme? Quand est-ce qu'il va exister? Quand est-ce qu'il va être réalisé? Donc, quand un homme, il a compris que le mazal, il existe, c'est vrai qu'il existe le mazal. Mais où tu te soumets au mazal, où tu dépasses le mazal. C'est quoi dépasser le mazal qui se met entre les mains d'Hachem? Mais non. C'est vrai qu'un homme, il peut perdre son libre arbitre. Parce que s'il devient rachat, c'est l'Yetzara qui le prend en main, il perd son libre arbitre. S'il s'implique dans la matière le prend en main, il perd son libre arbitre. S'il s'implique dans la génération de la conjoncture, il dit, on est dépassé, il faut vivre avec son temps. Ouais, il faut s'intégrer dans la société française. Et ben lui, il rentre dans la société française. Donc il subit la société française. Parce qu'il est dans la société française. Mais si quelqu'un dit non, je reste juif, malgré que je suis en France, et j'appuie ses mitzvot comme je dois le faire, il va rester juif au-delà du fait qu'il est dans la société française. Donc il aura une proximité avec Hachem. Mais s'il s'intègre à la société, il rentre dans le milieu, et c'est marqué dans le formeau. Soit, ouais, la majorité du peuple juif est soumis au mazal. Parce que tant que quelqu'un, il n'a pas, il ne s'est pas donné les moyens, il ne s'est pas battu pour apprendre la Torah et pour la vivre, il ne va pas sortir de son mazal. Et bien il va être dans le mazal. Et le libre arbitre, c'est pour les gens libres. Ce n'est pas pour les gens qui refusent la liberté. De la même manière qu'un délinquant, c'est quelqu'un qui a refusé le prix de la liberté, de la même manière, un rachat, c'est quelqu'un qui a refusé le prix de la liberté. Donc tant que quelqu'un ne s'est pas donné les moyens, il n'y arrivera pas. Ah, si quelqu'un va dire, ouais, mais alors moi, ça n'a pas été facile pour moi. Tous les bnei Israël, au moment où ils allaient sortir du ventre de leur mère, Akadosh Baruch Hu, il les a fait jurer d'être sadiques. Tout le monde a juré, on a tous juré la bataille. Ah pourquoi on n'arrive pas? Maintenant pourquoi Hachem va te faire jurer une chose que tu ne peux pas atteindre? C'est sûr. C'est sûr qu'Hachem t'a fait jurer une chose que tu peux atteindre. Que tu dois faire toi? C'est quoi ta chorma? C'est te donner les moyens de l'atteindre. Au lieu de cultiver l'échec, de dire et pourquoi j'y arriverai, comment j'y arriverai, à quoi ça sert et comment et pourquoi et tout, toi ce que tu vas faire, tu vas te donner les moyens. Et jour après jour, comme le directeur, comme le professeur, comme le proviseur, comme les cahiers, comme les livres, tout le monde a été créé pour toi, pour que tu te réalises. De la même manière, Ajourou, il a créé un monde pour que tu te réalises. Ajourou, il a dit, Ajourou, il a dit, moi, je suis pas intéressé à la mort du rachat. Genre, si t'es planté, je vais t'éclater la tête. Mais Hachem, c'est comme ton fils. C'est son fils. Je crois qu'Hachem, il a mis au monde un homme pour qu'il aille se planter. Alors, ni tu développes la Vera, ni tu développes le complexe d'Avera, tu développes le malaise d'Avera, ni tu développes la philosophie de l'Avera. Tu développes la philosophie de la mitzvah, la philosophie de la vie. Ouais, le contrat avec la vie, le droit à la vie, et tu vis. Ça va ou non? Maintenant, on a tout compris au niveau humain. Oui ou non? Maintenant, venez, on va passer au niveau divin. Vous êtes encore là, là? N'essayez pas de retenir tout, c'est même pas la peine de rêver. Hein. Au niveau divin, c'est quoi? Parce qu'évidemment, vous avez la question. Vous avez fait ce cours. Voilà, j'ai dit ce thème qui m'a pris la tête. Parce que vous avez tous une question. Vous avez dit, mais, oui, mais... Dieu, dans sa connaissance, connaît tout, et si Dieu connaît tout, où est-ce qu'il est mon libre arbitre? Vous avez cette question-là ou non? Vous voulez qu'on la règle une fois pour toutes? Alors moi, écoutez-moi bien. Moi, je vais mettre tout mon sang et toute mon énergie pour vous répondre le plus sincèrement à cette question. Mais moi, je vous demande une chose, dans ce deal-là qu'on va faire tous les deux, c'est que vous allez mettre toute votre énergie et tout votre sang à comprendre ce que je vais vous dire. Parce qu'attention, c'est dur. Le Rambam, il a posé cette question. Le Rambam, il a dit, quand on donne une mauvaise réponse, on ne pose pas cette question. Parce que cette question, elle déstabilise. Donc moi, maintenant, j'ai fait un deal grave avec vous. J'ai pris le risque de poser la question. Donc vous ne faites pas les gamins de dire, ouais, on ne peut pas répondre à une question comme ça, parce que c'est vous qui avez la question, moi je ne l'ai pas. C'est ça, la liberté intellectuelle. C'est d'assumer ces questions. Ça fait? Voilà. Alors je vous réponds. Le Rambam, il pose la question. Il dit, si Hachbourg est au courant, alors où est-ce qu'il y a le libre arbitre? Il répond une chose effroyable. Par sa clarté, tellement claire que même le rival, il n'a pas compris. Il y a Kadosh Baruch Hu. Il ne fonctionne pas comme nous. En marche vota Hachem, il a dit Hachem. Mes pensées ne sont pas mes pensées. Ça veut dire quoi? Hachem, il fonctionne en dehors du temps. Il n'est pas soumis au temps. Parce que le temps fait partie de la création. Nous, nous sommes dans le temps. Donc nous, nous ne comprenons pas ce qui fonctionne hors temps. Parce que le temps, il implique la hiérarchie, il implique l'ordre, il implique donc la matière, il implique l'événement, il implique l'histoire. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il est au-delà de l'histoire, au-delà de l'événement. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, dans sa connaissance, elle est infinie. Puisque si sa connaissance n'était pas infinie, et qu'il avait ce qu'on appelle des surprises devant l'inconnu, donc ça voudrait dire qu'il y a une différence entre sa connaissance de maintenant et sa connaissance de tout à l'heure, donc ça veut dire que Dieu est deux. Or, comme Dieu est un dans sa connaissance, donc vous regarderez là-bas le premier pérègue de l'Issue de la Torah du Rambam, vous a expliqué que Dieu est un dans sa vérité, donc Dieu est un dans sa connaissance. Donc si Dieu est un dans sa connaissance, obligatoirement il connaît l'avenir. Attention. Maintenant, le fait qu'il connaisse l'avenir, oui, ça n'implique pas pour autant qu'il veut ou qu'il engendre l'avenir. C'est comme si toi, tu as une caméra vidéo qui te permet de voir une attaque de banque. Mais tu es enfermé dans un bloc, tu ne peux pas intervenir. Ou tu as choisi de ne pas intervenir. Maintenant, que tu es enfermé dans le blocos parce que tu ne peux pas sortir, ou parce que tu t'es enfermé dans le blocos parce que tu veux que le monde se fasse, Akadosh Baruch Hu, il s'est enfermé dans un blocos qui s'appelle le blocos de sa connaissance, et Akadosh Baruch Hu, il sait, mais il n'intervient pas pour que ça arrive. Ah, pour nous, c'est difficile de faire la séparation entre les deux. C'est pour ça que le Rambam, il a dit « En marchez vos tailles, marchez vos terres ». Ça veut dire quoi? La modestie intellectuelle, c'est de comprendre que je ne suis pas Dieu. Donc je ne peux pas fonctionner comme lui. Ouais. C'est-à-dire que même si j'ai certaines questions, il y a certaines réponses que je ne peux pas avoir parce que je n'ai pas l'amplitude mentale pour l'avoir. De la même manière qu'aujourd'hui, on dit il y a du bien, il y a du mal, il y a du vrai, il y a du faux. Pourquoi? Parce que nous, on regarde la vie par un trou de serrure. C'est-à-dire qu'on voit seulement la main qui écrit. On ne sait pas pourquoi la main écrit, mais on ne sait pas où est-ce qu'elle ira la lettre. Jusqu'au Mashiach, où on va s'asseoir. Et Akadosh Baruch Hu, il va nous repasser le film des 6000 ans, et il va nous expliquer chaque chose. Il va dire pourquoi celui-là il est mort, pourquoi celui-là il a souffert, pourquoi celui-là il a kiffé, pourquoi celui-là il a subi, pourquoi celui-là il est d'œuf, pourquoi celui-là il est orphelin. Akadosh Baruch Hu va nous expliquer toute l'histoire. Parce que là on aura tous les éléments, puisque les éléments ils commencent en l'an 0 et ils terminent en l'an 6000. Mais tant qu'on n'a pas la capacité d'avoir la vision globale, et pour nous c'est pas intéressant d'avoir global, parce qu'on n'a pas, premièrement, la capacité de l'absorber, et deuxièmement, on n'a pas la capacité morale d'accepter la souffrance, oui, et de comprendre le bonheur. Même le bonheur, on ne le comprend pas. Et si quelqu'un me dit, moi j'ai des questions sur la souffrance, je lui dis d'abord explique-moi le bonheur, après je t'explique la souffrance. Parce que le bonheur, c'est aussi inexplicable que la souffrance. Voilà. Donc si c'est comme ça, le plan global, Akadosh Baruch Hu, il l'a, c'est vrai, il a la connaissance. Mais cette connaissance n'implique pas pour autant qu'il va intervenir pour, de la même manière qu'un type qui est haram. Il peut faire par spéculation, il peut connaître l'avenir. Comprenez, par exemple, moi, dans mon travail que je fais avec les couples, quand j'ai des couples qui viennent devant moi, des fois je peux pratiquement leur dire la date du divorce. Alors qu'ils sont mariés depuis un certain temps, et je peux leur dire. Parce que quand je vois le niveau d'égoïsme, le niveau de non-application, le niveau du manque de solidarité, le niveau de manque de chesed, le niveau du manque de compréhension, tu peux calculer pratiquement mécaniquement le niveau de détérioration et la vitesse du divorce. Alors quoi, je suis Dieu? Non, c'est une mécanique. Un vota et la vie, c'est une mécanique. Les gens, ils aiment le flou, parce que dans le flou, chacun, il peut baratiner ce qu'il veut. Dans le flou, tous les chats sont gris. Mais un jour, on allume la lumière, un bota, il s'appelle la maturité. Et on dit, ça suffit le baratin. On sait que le mal amène le mal, et on sait que le bien amène le bien. Alors on arrête de rêver à Walt Disney que les cowboys, ils arrivent à la fin, ou que les indiens, ils gagnent toujours. C'est des bêtises. La vie, c'est pas comme ça. Ah, la question, on peut se la poser. C'est vrai, on peut se la poser. Ça fait partie du libre arbitre. Mais la réponse, il faut l'avoir. C'est quoi? C'est de savoir quand est-ce qu'il commence Dieu, quand est-ce qu'il s'arrête l'homme. Si on se prend pour Dieu, rappelez-vous, c'est dangereux. Oui? Pourquoi? Parce qu'il faut avoir la modestie intellectuelle de faire une différence entre toi et Dieu. Déjà, tu ne comprends pas comment tes poumons marchent, tu ne sais pas où vont les plaquettes, tu ne sais pas comment se déplace le sang. Alors tu voudrais comprendre la psychologie de Dieu. Tu as mis Dieu sur un divan. Alors, et la modestie? Regardez, on a pris plus de 1h30, plus de 2h, pour expliquer la partie humaine. La partie divine, c'est même pas la peine de commencer. Je vous ai donné les éléments que vous avez besoin. Mais de se prendre la tête à se poser une question dont je sais réellement que je ne peux pas atteindre la réponse, pas parce qu'elle est compliquée, mais parce que je n'ai pas la largesse mentale pour pouvoir l'aborder, la vraie question, c'est pas pourquoi il n'y a pas de réponse, la vraie question, c'est pourquoi tu cultives la question. Donc la culture de la question, on appelle ça l'immaturité, parce que ça te permet de ne pas avoir à subir la réalité. Donc celui qui se crée des questions, qui lui évite d'assumer les réponses, c'est parce qu'il gère et il cultive son malheur, plutôt que d'assumer la difficulté du bonheur. Ça va ?